L'équipe du soir, du dimanche, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la chaîne L'équipe. Plus de musique? On a arrêté la musique? Ok, bon, on arrête la musique, pas de soucis. On relance la musique, c'est possible? Voilà, bien sûr, musique. Bonsoir, l'équipe du soir, le match vient de se terminer, dernier match de la 28e journée de Ligue 1 à l'instant. Donc bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne L'équipe avec l'équipe du soir. On est ensemble jusqu'à minuit et demi, pas de pub pendant une heure même, pour débriefer la victoire lyonnaise. 3-1 face à Nantes, on va en parler dans un instant, on va voir toutes les images, bien sûr, également de ce dimanche de Ligue 1. Le casting ce soir, le président Raymond Domenech. C'est vraiment.
J'aurais aimé prendre Maradona, mais il est mort.
C'était finalement vos deux anciens clubs, là. Lyon et Nantes qui s'affrontaient ce soir, Raymond.
J'ai pas le même historique avec les deux.
C'est vrai, vous avez passé un peu plus de temps dans l'un des deux clubs. Mais victoire de Lyon ce soir, et on va parler avec vous, Raymond. L'homme à l'or de l'EDS, Greg Schneider avec nous. Ça va, Greg?
Ça va très bien. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir
pour,
à tous.
Pour raconter un peu les coulisses, vous aviez un peu peur finalement avant cette dernière affiche de Ligue 1. Elle vous plaît, elle vous a plu.
C'est quand tu désespères du football, le football vient à toi.
Il est venu à
il m'a animé, il m'a illuminé.
Le Fennec de l'ODS, la Belgique. Peigné comme jamais.
Peigné comme jamais.
Ça pourrait être. Il n'y a pas de jeu de mots.
Ça pourrait être le titre d'une chanson, ça.
C'est vrai, ça.
Ouais, bah, je me suis refait une coupe avant d'arriver. Mais par contre, on n'avait pas dit que c'était une heure sans pub. Parce qu'en général, c'est comme quand je prends l'avion.
Moi j'attendais une suite, il n'y avait pas eu d'entrée. C'est cette histoire. Mais Nabil reste avec nous, c'est important. Le commissaire Valentin, je suis ravi, c'est ma première avec lui dans le DS. Guillaume Dufy, ça va, Guillaume?
Ouais, ça va très bien. Très très bien. Moi aussi j'étais inquiet. Je me suis dit une heure sur Nantes-Lyon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire?
Et finalement, on va s'arrêter.
Une heure, ça va peut-être être court. Ouais.
Eh oui, il y a des choses à dire. Vous avez raison. Et puis le professeur à vos côtés, Dave Apadou. Ça va, Dave?
Ça va. J'ai jamais été inquiet. Mais sur ce plateau, il y en a qui, même quand ils n'ont rien à dire, ils arrivent à dire des choses.
C'est parce que vous êtes un amoureux du football.
Mais toujours.
Quel qu'il soit, bien
évidemment.
Sûr.
Et le football vient à nous quand
et le football est venu à vous également. Et c'est lui qui vient à nous ce soir, c'est Jérémy Jeannin-Gros. Ça va, Jérémy?
Très bien.
Avec les images, les réactions, les infos de la soirée. Et vous allez venir à nous, pourquoi? Parce que vous allez nous montrer les victoires de Lyon ce soir face à Nantes.
Et oui, les images de la Beaujoire à huis clos parce que les supporters avaient utilisé des fumigènes lors du dernier match à domicile. Triste scène qui rappelle aussi la période du Covid. Mais ça commence fort quand même pour les Nantais. Ça les a pas gênés parce que c'est Abeline qui va ouvrir le score à la 12e minute de jeu sur un centre de Mollet. Son deuxième but de la tête en deux matchs après celui contre Nice la semaine dernière. L'égalisation, elle est pour Lacazette après une double parade de Lafont, 14e but en Ligue 1 pour Alexandre Lacazette. 77e minute, c'est 2 minutes après seulement. Malik Fofana pour son premier but en Ligue 1, le Belge de 19 ans. Et puis dans les 10 dernières secondes, c'est Mama Baldé qui va servir Gift Orban au classement. Nantes fait une mauvaise opération dans la course pour le maintien. 15e à seulement 2 points du barragiste Lorient. Lyon est 10e à 1 point de Rennes et de Marseille.
Première question, est-ce une victoire logique de l'Olympique Lyonnais ce soir? Tenez, Nabil.
Est-ce que c'est une victoire logique?
Ouais.
Oui, c'est une victoire logique. C'est vrai que
Nantes menait 1-0, on l'a vu.
Oui, mais c'est vrai que sur le premier quart d'heure, Lyon aurait pu aussi ouvrir la marque. C'est pas un match totalement maîtrisé. J'ai vu beaucoup de déchets dans les 30 derniers mètres du côté de Lyon. Mais quand ça s'est connecté, quand ils se sont trouvés, bah, le talent il a fait la différence. Et il ne l'a pas fait de manière étriquée, puisque ça termine quand même par 2 buts d'écart. Donc pour moi, c'est une victoire logique d'un Lyon qui revient bien dans cette Ligue 1. Qui est même, on ne le voit pas sur votre tableau, mais ils sont plus qu'à 1 point de l'Olympique de Marseille.
C'est vrai. Et on va en parler un peu ce soir également. Président, votre sentiment après la victoire de Lyon ce soir, victoire logique méritée sur l'ensemble de la rencontre?
Oui, mérité, mais c'est vrai que Lopez fait quand même 2 arrêts en première mi-temps importants qui comptent. Mais la maîtrise, en fait, on avait l'impression qu'elle était lyonnaise. Lyon a eu des situations, pas beaucoup d'occasions, mais on a l'impression, parce qu'ils ont raté au dernier moment la dernière passe, le bon geste. Mais ils avaient des situations qui faisaient qu'on sentait qu'ils étaient au-dessus et qu'à tout moment, ça pouvait basculer et qu'ils pouvaient
marquer. Peut-être.
À la limite, moi, je pense que c'est les faiblesses de Nantes qu'on a surtout vues.
Ouais.
Des boulevards, des espaces, des erreurs techniques. Je veux dire, une équipe pas compacte, une équipe qui joue sur des à-coups. Voilà, c'est autant l'un que l'autre. Moi, cette équipe de Nantes que j'avais vue plus solide dans le match
contre Nice.
Bah là, c'est éparpillé. On a l'impression que le terrain était trop grand pour eux.
C'est la fin de l'effet Camboire, donc.
Je sais pas, mais
moi, je ne remets pas en cause la supériorité lyonnaise, mais j'ai un problème à partir de la 52e minute, moi. Lacazette, le coup de coude de Lacazette sur le pauvre Zézé, arcade explosée. Moi, je pense que Lacazette, là, à ce moment-là, Lyon est mené 1-0. Moi, je pense que Lacazette mérite un rouge. C'est lui qui marque, égalise. Zézé sur le but aussi de l'égalisation.
Il est sur tous les mauvais coups après.
Franchement, moi j'ai un vrai souci. Ce garçon aurait dû sortir, protocole commotion aussi. Voilà, l'arbitre sur cette qui a été plutôt bon sur le match. Là, la 52e minute, elle est gérée, mais n'importe comment.
D'accord, non, Greg.
Moi, je dis pas comme lui. Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais on est quand même encore dans le champ d'interprétation. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il me semble qu'il y a rien de, il y a pas de truc flagrant. Si, comme Guillaume le dit,
il met un énorme coup de coude.
Non, mais bon, écoute, il met pas. Pour moi, c'est pas un geste volontaire. C'est un geste qui est encore un petit peu. Mais je comprends. S'il le sort, je comprends. Mais s'il le sort pas,
tu crées pas un scandale,
si. Et si on n'est pas. Oui, mais si c'est pas dans, à un moment donné, faut revenir à la notion d'erreur flagrant. Le VAR est là pour ça. Et là, ça me semble pas rentrer dans ce champ-là. Et avec le, mais si l'arbitre fait ce que Guillaume dit, je le comprends tout autant. Mais à un moment donné, il y a un mec qui arbitre, il fait ses choix, et la situation est en grise. Si elle est pas noire, si elle est pas blanche, tu le laisses valider la situation grise. Après que Lacazette ait posé sur le match, c'est très clair. Après que Nantes se soit un peu éteint, alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? C'est très clair, parce que s'ils ont la dernière demi-heure de Nantes, c'est cataclysmique. Il y a plus rien, il y a plus rien. Donc il y a peut-être effectivement, ça ressemble à un tournant, mais je suis pas sûr qu'il fallait l'imputer à l'arbitre. Voilà.
Non mais Nantes il rate le coche première période. Parce qu'il y a ce but qui est un beau but, hein, qui est bien conçu.
Avec Assisoko d'ailleurs qui jouait un peu plus haut, hein, sur le terrain.
Exactement. Voilà, sur son côté droit notamment, il a fait quelques dégâts. Et puis il y a une ou deux autres occasions nettes où Anthony Lopez franchement sort vraiment des parades de classe, quoi, des sorties sur le même Ablin d'ailleurs, qui aurait pu presque avoir un doublé, triplé, alors sans qu'il y joue mal d'ailleurs, parce que franchement Lopez il a été bon sur ces coups là mais passé ce moment là où Lyon d'ailleurs était pas mauvais non plus, mais comme l'a dit Raymond, c'était un Lyon qui était bon mais jusque dans les 25 derniers mètres adverses, et là on sentait qu'il manquait un tout petit peu de justesse. Je me suis demandé d'ailleurs à un moment jusqu'à quel point ils vont tricoter, ou est-ce qu'il va falloir se muer en quelque chose?
Parce que Lafond n'a pas d'intervention.
Exactement.
Hein.
Lafond a quasiment rien à faire. Et juste un truc, quand même, les changements. Est-ce que vous disiez, est-ce que c'est mérité? Quand tu vois la force de frappe que peut faire rentrer Lyon, parce que sorti de Lacazette, tous les noms qu'on a énoncés, Cherki, on va en parler, il est dans tous les coups. Fofana, Orban,
Balde. Ils ont marqué ou ils ont fait la passe.
Exactement. Et quand tu as cette puissance de feu pour prendre le relais après l'heure de jeu, alors qu'en face, c'est plus étriqué et à mon avis, ça tire la langue, ça explose dans tous les sens.
Par rapport à ce qu'il dit, je me suis quand même pendant une heure, j'ai eu l'impression, enfin, je sais pas vous, mais de les voir assez suffisants quand même, nos amis lyonnais. Matic était contre le pass, on jouait la baballe dans la surface et je te la donne,
c'est pas de la suffisance. C'est un manque de décision.
Ouais, d'envie de faire mal ou de.
Il y a beaucoup d'erreurs, comme Mohamed a fait un nombre incalculable
de passes n'importe où.
Dans les 20 derniers mètres.
Il y a un tueur dans cette équipe, c'est Lacazette. Un tueur, mais des guillemets, on se calme, c'est du foot.
D'ailleurs, il a tué.
Pas facile de dire la bringue d'après Valenciennes, peut-être. Tel exploit de battre Valenciennes en finale, qu'ils ont dû fêter ça.
Justement, on peut regarder cette performance-là, et notamment la première période de Lyon, via le prisme de cette demi-finale de Coupe de France. Est-ce que les Lyonnais étaient encore dans...
Non. Ah, je croyais que vous alliez demander s'ils étaient déjà sur la finale.
Non, pas projection, mais
mardi, dans le match, c'est mardi, il y a 5 jours, il ne faut pas exagérer. 5 jours, voilà.
Il se pense déjà sauvé, ce qui est le cas.
C'est ce que j'ai cru pendant près d'une heure. Honnêtement, j'étais sur cette piste-là en me disant, ils attendent leur finale contre.
Et c'était l'alerte de Pierre Sage avant le match, d'ailleurs. Voilà. Il expliquait, nous, tant qu'on n'est pas sauvé mathématiquement, je ne peux pas me projeter sur une qualif européenne.
Mais moi, je retiens plus votre première hypothèse. Parce que, on le sait qu'ils sont sauvés. En vrai, on le sait. Oui. Ils le savent, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que que cette joie, assez incroyable d'ailleurs, sur la demi-finale à domicile contre Valenciennes qui est dernier de Ligue 2, etc. Mais je pense que cette joie, elle vient du fait que il y a tout le début de saison en fait qui est remonté à travers ça. Voilà un club qui décembre est donné quasiment statistiquement pour mort pour la Ligue 1.
Il était très longtemps dernier du championnat.
Exactement, dernier du championnat. Il y avait une stat qui était sortie qu'avec ce nombre de points,
était mort.
Exactement. Je crois que c'était quasi du 100% ou presque. Donc voilà, il y a tout ça qui est ressorti et il se retrouve à un match d'être européen, ce qui est complètement fou en fait dans l'histoire. Et je me demande dans quelle mesure.
Premier titre depuis 12 ans.
Voilà, exactement, parce qu'en plus c'est pas une histoire d'amour énorme Lyon avec la
Coupe de France.
Donc moi je me demande s'ils ont pas mis du temps avant de reconnecter à ce qui est quand même leur quotidien et leur ordinaire, c'est-à-dire quand même le championnat. Moi je suis persuadé que c'est ça. Et comme il n'y a plus le sentiment d'urgence qu'il pouvait y avoir quand il jouait avec les miquettes, quoi, en quelque sorte, parce qu'ils étaient au bord du ravin. Je pense que là, ils étaient un peu dans une zone de confort et le temps de basculer de cette qualification pour une finale qui était inattendue pour eux compte tenu de leur parcours. Et là, un match contre Nantes, huis clos, machin, je pense qu'ils ont mis du temps.
Oui, mais ce raisonnement n'explique pas le premier quart d'heure où ils ont été très bons.
C'est vrai.
Où ils ont des situations.
Des situations.
Oui, mais qu'ils ont raté parce que Mouhamad, il a fait 3-4 fois, même la casette, ils ont fait des passes derrière au mauvais endroit.
Bien sûr.
Mais ils ont créé quelque chose.
Ils ne sont
pas rentrés.
Oui, mais après, est-ce qu'ils avaient la détermination pour faire absolument mal à cette équipe? Je suis d'accord avec toi, dans le jeu, ils étaient bien.
Et puis souvenez-vous les actions, tu vois vite un Lyonnais faire 30 mètres avec le ballon. Enfin, Nantes, il n'y a rien. Les 10 premières minutes de Nantes, c'est épouvantable. On les a retrouvés un peu comme ça à la fin, peut-être à cause des remplaçants, comme vous dites. Mais le début de match, le premier quart d'heure de Nantes, c'est. Alors, c'est peut-être aussi le stade, l'ambiance. Je veux pas les. Mais le premier quart d'heure de Nantes, c'est pas possible.
Ils ont quand même joué la quasi-totalité de la saison avec un stade plein, le FC Nantes, et ils sont quand même en position de relégable, mais ils vont se battre pour le maintien jusqu'au bout.
Et pour l'avoir vécu, le huis clos, c'est pour les deux équipes.
Oui.
On a l'impression d'être dans un désert, un boulevard. Je veux dire, on entend tout. C'était le président qui parle dans la tribune.
C'est aussi pour les journalistes qui suivent.
Voilà, les journalistes, pareil, on les entend aussi.
Kita parle dans la tribune.
Ah oui, c'était lui le président. Oui, c'est
la première action, l'une des premières actions, celle de Nemanja Matić, le milieu de terrain lyonnais.
Exactement. Il déclare, on joue bien collectivement. On a été bien meilleur en deuxième période. On mérite cette victoire. Lyon mérite mieux. On travaille au quotidien pour cela. Ce qu'on fait en ce moment nous donne beaucoup de confiance, ce qui entraîne de bons résultats.
Oui, c'est vrai, on était bien meilleur en deuxième période. Il partage votre.
On pourra en reparler de Matić ou pas?
Bah, allez-y.
Non, parce que je saisis la balle au bon, puisque c'est lui qui déclare. J'ai un souci pour évaluer Matić, mais d'une manière générale. C'est-à-dire que.
Avec le ballon, il est exceptionnel.
C'est-à-dire que jusqu'à un certain rythme de jeu, quand il a une forme de confort, parce qu'en face, c'est pas des brutes, etc., qu'il subit pas une pression Ligue des Champions, on va dire, franchement, c'est incroyable, les angles de passe qu'il trouve, la sécurité technique et tout. En fait, le problème, c'est si le niveau s'élève.
Non. Contre Valenciennes, il a été catastrophique.
Oui, en plus.
On aurait dit un grand-père, il est allé à deux à l'heure, il se faisait prendre le ballon dans les pieds. Tu ne peux pas dire que c'est Valenciennes qui a mis
extraordinaire. Sans doute pas. Mais là, ce soir, par exemple, on a l'impression qu'il peut quand même faire à peu près ce qu'il veut. Mais je me demande si c'est. En fait, je me demande si c'est une bonne idée quand même.
Ça aide son équipe ou si c'est contre-productif?
Je suis pas sûr.
Après, il fait son âge.
Vous avez tort. Je veux dire, il est le régulateur. Il est Bentaleb à Lille.
Je trouve qu'il est en dessous.
C'est le régulateur. Il perd pas un ballon, il te le donne juste, il se déplace au bon endroit, il calme l'équipe.
Il faut bien avoir le ballon quand même.
Parce que
quand il l'a plus, c'est embêtant.
Quand
ça peut être embêtant.
Si le niveau s'élève et qu'il tombe sur des
boulevards. Il bouche l'espace. Les boulevards qu'il y avait au début à Lyon, où ça partait dans tous les sens, t'en vois plus beaucoup. Parce qu'il bloque les espaces. Il a sans courir. Sans tacler, juste en se positionnant, il amène quelque chose.
Enlève-le. De jeu-là. Mais si ça doit s'élever, je pense qu'il est plus
Raymond, tu l'as dit, l'un des meilleurs Lyonnais ce soir, c'est quand même Lopez. Donc ça veut dire que dans le repli défensif et défensivement, nos amis Lyonnais ont connu quelques soucis. Et je trouve que Matić, à la perte du ballon, tu dis bouche. Enfin, là, ce soir, il a pas bouché grand chose, quand même, parce que Lopez a bouché des choses.
Non, mais David a raison.
Je pense que sur ce que dit Guillaume, ils ont quand même un problème, je trouve, les Lyonnais, quand ils ont pas le ballon. Ils ont quand même un problème pour aller le chercher. Et ça fait des années que ça dure. Il y a quelque chose qui les poursuit à ce niveau-là. C'est une équipe qui est forte avec le ballon, mais c'est une équipe qui court peu et qui aime pas courir après le ballon. Donc, t'es toujours, Cacré, c'est pareil, t'es toujours un peu rendu. Mais il faut rentrer Matić qui précisément.
Attends, Cacré, il te fait 11 km par match.
Mais justement, Nabil l'évoquait à l'instant, Maxence Cacré. On a l'impression que depuis l'arrivée de Matić, Cacré s'est libéré. Il est meilleur depuis l'arrivée de l'ancien René.
Bah, c'est sûr que quand tu te retournes et tu vois derrière toi Matić, c'est pas un cirque, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'était une zone du côté de Lyon où on cherchait un peu la sentinelle comme au Paris Saint-Germain à un moment donné. Ils sont passés à côté de certains profils, ils ont fait des mauvais recrutements, mais c'est vrai que sur Matić, je suis assez d'accord parce que
le joueur qui a touché le plus de ballons d'ailleurs.
Ouais.
Matić.
Parce qu'en fait, je me dis, il y a deux options, soit t'as tout le temps le ballon et ça va, mais c'est vrai que dès que tu le perds, t'es en difficulté. Je veux bien qu'il ait la science du placement, mais quand t'as des mecs qui cavalent et qui percutent balle au pied, il peut faire ce qu'il veut, mais il les rattrapera pas. Ou alors t'as une équipe qui est en bloc bas et lui il fait le quarterback juste devant en lançant des flèches. Donc c'est vrai que c'est un peu, mais quelque part, vu la situation de Lyon, avoir récupéré un joueur comme ça. Avec son expérience, avec ce qu'il fait, ce qu'il apporte en termes de sérénité aux autres. Je pense que c'est un des premiers relais aussi de l'entraîneur. Bon,
mais à regarder, c'est validé, à regarder, c'est quand même très beau. Des joueurs aussi fins techniquement en Ligue 1, on a quand même pas des masses. Tu parlais des angles de passe en deuxième mi-temps là.
Ah oui, celle qui
donne. Il est qu'à la Fofana, elle est extraordinaire. Franchement, c'est fantastique. Il y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça.
Et après, on passe à un peu plus.
Comme quoi, c'est bien quand t'es à la lutte pour le maintien de pouvoir te repayer une équipe à l'hiver en fait. Ce qu'ils ont eu le loisir de faire, contrairement aux autres. Non, mais à un moment donné,
on met ça en avant. Jean-Michel Roussier dirait que ce n'est pas juste.
Bah, il n'est pas le seul. Allez voir à Metz, allez voir.
Bon, bah, le football est injuste.
Il faudrait prendre la première partie de saison de Nice et rajouter celle, la deuxième partie de saison de Lyon.
Et ils sont champions.
Et on a un championnat.
On a un vrai championnat. Lyon européen. Alors la question, une des premières questions de l'EDS, si vous nous rejoignez dans l'équipe du soir ce soir, après la victoire de Lyon à Nantes, Lyon européen par le biais du championnat. Et croyez-vous, plus que jamais, habillage à la lyonnaise. Guillaume.
Septième.
En rappelant juste la précision, effectivement, la remarque de Nabil, 7e place du PSG pourrait être qualificative pour la Ligue Europa Conférence en cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale contre Lyon,
mais
en Coupe de France.
Si Paris ne gagne pas, c'est Lyon qui gagne.
Voilà, par le biais du championnat.
Mais réglé.
Par le biais du championnat. Guillaume.
Allez, je dirais ouais. Je dirais oui.
Dave.
J'aurais jamais cru dire ça, mais oui.
Ouais, moi non plus, hein. Remontrez pas les émissions de novembre, Karim.
Moi, je les ai remontrées.
Ouais, mais il y a le mercato.
Non, pour vous, non, Greg.
Bah, non. Moi, en novembre, je pensais à un derby Lyon-Saint-Etienne.
Regardez le classement. Lyon est revenu à un point du 8e. Marseille, à deux points seulement de la 7e place occupée par Reims.
Honnêtement, je vais dire non.
Bah non.
Président, deux oui, deux non.
Ça fait 2-2.
Et je crois qu'on a donc
On peut débattre.
Ouais, et donc
débattons.
Un super duel, c'est parti.
Vas-y en premier.
Sinon, Raymond, vous connaissez l'émission parce que ça s'appelle Super Duel. Hein.
Oui, je sais, mais
c'est pas un super débat.
Mais je suis pas obligé de.
Non, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, ne restez pas dans la norme, c'est important. Super Duel. C'est parti. Et un super duel royal même. Dave et Guillaume, un oui pour Greg et Nabil. Non, vous avez
raison. Qu'est-ce qui fait qu'il est royal?
Parce que c'est un affrontement gauche-droite.
Voilà. Toi, c'est quand il est pétillant, je pense.
Vous connaissez vraiment pas l'émission, Raymond.
Non, c'est ça.
On y va, on va attaquer par la paire.
Tu veux y aller?
Ouais, je peux y aller. Vas-y.
De Greg, composé de Greg et de Nabil. Donc, les noms. Non, Lyon ne sera pas champion. Qui commence, Nabil?
Champion, c'est Lyon.
Européen, pardon.
Karim. Si c'est ça la question, moi, j'y vais pas.
Donc, on a plus de duel.
Non, il y a plus de duel.
Nabil, pas européen pour vous. Une minute par équipe pour convaincre.
Donc pas européen pour la 6e place, non, je ne les vois pas, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une équipe à remonter, il y a plusieurs équipes, il y a des dynamiques qui ne sont pas si certaines que ça. Si vous avez juste à rattraper et dépasser l'Olympique de Marseille, franchement, Clermont peut le faire, là, on en est maintenant. Mais il y a quand même Reims, qui est une équipe sérieuse, il y a quand même Lens, même si elle est légèrement en perte de vitesse, elle a quand même quelques points d'avance. Il reste 18 points à prendre. Je trouve que la remontada de Lyon, elle est belle, mais je pense que leur principale chance de accrocher un strapontin européen, ça reste cette finale de Coupe de France. Voilà.
De l'autre côté, qui y va?
Eh ben moi, je vais y aller. Tu parlais de dynamique. La dynamique de Lyon, elle est exceptionnelle depuis le mois de décembre. C'est la troisième meilleure équipe française. Tu parlais de Reims, de Nice. Mais Lyon a quelque chose en plus. A un potentiel offensif incroyable. On l'a vu cet après-midi, ou ce soir plutôt. Même en difficulté, elle a des attaquants incroyables. Tout est connecté. Et je trouve que ça peut faire la différence.
Il restera du temps pour.
Ouais, je lui ai promis.
Moi, je trouve que c'est une mauvaise équipe. Je trouve pas qu'elle est portée par un véritable élan collectif. Elle se fait quand même bouger aujourd'hui, parce que Nantes a quand même les occasions de 2-0 par une équipe qui est dans les tréfonds. Je trouve que c'est une équipe qui dégage pas quelque chose. Il n'y a pas cette force qu'on peut sentir, même à Lens, même à Reims. D'ailleurs, Lens leur donne quand même une leçon de football il y a un mois et demi. Je trouve que c'est une équipe où effectivement il y a du talent, mais c'est comme un peu un cerf-volant sans ficelle. Elle est pas intense, elle est pas guidée. Et j'ai aussi d'ailleurs vu s'asseoir, donc j'y crois pas. Je pense qu'il leur manquera toujours quelque chose au bout du verre.
Pour terminer, Dave.
Oui, Greg devrait relire le classement, la 7e place, donc il serait qualificative en cas de victoire du PSG. Elle est à deux points. Elle est à deux points et c'est des équipes comme Reims, accompagnées de Marseille. Marseille est en roue libre. Reims n'est plus du tout la même équipe qu'en première partie de saison, même si c'est une équipe que j'aime bien. Et Rennes est aussi un peu en train de toucher ses limites. On le voit depuis quelques temps. Lyon, on l'a rappelé, c'est la même mieux que la troisième meilleure équipe. C'est la deuxième meilleure équipe depuis le mois de décembre, à égalité avec Brest, et seulement devancée d'un point par le PSG. Donc franchement, si avec ça, on se dit pas que Lyon a une vraie chance de refaire deux petits points de retard sur Reims, qui a du mal à avancer comme Marseille, comme les autres, j'y crois à fort, moi.
Voilà pour ce super duel royal. L'équipe Connect pour voter. N'hésitez pas, avec le QR code, votre téléphone, vous nous donnez votre avis également. Et on vous donnera le résultat dans quelques minutes. Président, Lyon européen par le biais du championnat, croyez-vous plus que jamais?
Pour y croire, il faudrait que j'ai vraiment les matchs qu'il en reste à jouer.
Vous les voulez?
J'aimerais bien.
Est-ce qu'on peut les avoir?
Je pense que
les matchs de la région. Sachant qu'il y a du lourd. Il y a du lourd.
C'est Matic.
Il y a du lourd qui arrive pour les Paris, pour Lyon. Voilà. Avec le PSG notamment. Allez-y.
Les trois prochains matchs. La suite, il y aura Brest, le Paris Saint-Germain, Monaco, Lille, Clermont, Strasbourg, et puis à nouveau la finale du Paris Saint-Germain. Ce sera le 25 mai pour la finale.
Voilà. Toi dans le nez.
Voilà, messieurs. Bon, merci. Donc, on aurait dû commencer par là.
C'était le premier truc. C'est de dire, pour pouvoir faire un pronostic, il faut regarder ce qu'ils vont jouer. Ils ne jouent pas les derniers du championnat. Si, ils jouent Clermont à la fin, qui jouera encore le maintien et qui ne sera pas une équipe facile. Et les trois prochains matchs qu'ils jouent, ils peuvent prendre 0 points.
Tu plaisantes, ils prendront pas 0 points.
Monaco, Paris.
Mais tout le monde peut prendre 0 points.
Non, mais ils jouent. Si on fait comme avec Marseille, on se dit Marseille, ils gagnent des points contre les équipes qui sont en dessous, et dès que c'est au-dessus, ils gagnent.
Vous pensez vraiment que Lyon ne peut pas prendre des points contre les Brestois, sachant qu'ils ont exactement la même dynamique en 2024.
Brest est comme une équipe beaucoup plus forte que Brest est comme une équipe.
On a vu aujourd'hui, on reverra les images tout à l'heure. Oui, Brest a pris 3 buts à la maison contre Metz.
Depuis décembre, ils ont le même bilan.
C'est possible, mais derrière, ils jouent le PSG et après ils jouent.
Qui aura la tête à la Ligue des Champions?
Ils n'ont pas qu'une équipe à remonter.
Il faudrait, si on veut être juste, il faudrait comparer avec les autres calendriers. Alors.
Et on passe,
passe 4 heures d'émission sur les calendriers.
Et j'adore être avec vous, mais
il y a surtout que la dynamique des autres vous montre que eux, ils vont pas t'avaler le calendrier comme ça. Non. Reims, tout le monde les voit jouer. C'est une équipe qui est plutôt plaisante d'ailleurs, puisque
elle a du style.
Non, mais évidemment,
mais il n'y a pas le potentiel offensif.
Exactement. Moi, je trouve qu'il manque de talent.
Il manque un truc.
Ils mettent pas un pion. Reims, c'est l'équipe qui, honnêtement, au niveau de la structure, c'est un peu. Franchement, c'est une bonne équipe de Ligue 1.
C'est costaud, c'est solide.
Pas un but. Non, mais de toute façon, ils n'ont pas de talent devant. Donc, il y a aussi Marseille et en roue libre. Le client éventuellement, ce serait Rennes. Mais Rennes, ils sont un peu en train de toucher leur limite aussi.
C'est la semaine prochaine, Yann, tu dis le contraire. C'est ça, en fait, le problème de ce genre de truc. C'est que les équipes que vous annoncez en dynamique négative, à un moment, ça inverse.
Sauf qu'on te dit que depuis décembre, c'est pas la semaine dernière. Depuis décembre, Lyon est la meilleure équipe du championnat derrière Paris.
Je serais d'accord avec vous. Quand ils auront enchaîné un ou deux matchs face à des équipes qui sont bien en dessous,
on se retrouve un dimanche dans 15 jours.
Parce que quand ils ont joué Lens, ils jouaient pas dans la même division la dernière fois.
Sur Rennes, vous avez dit quelque chose sur Rennes. Là, ils viennent d'enchaîner aussi. C'est un peu l'Everest. Le PSG en coupe, le Monaco, c'est des équipes compliquées. On sait très bien que Rennes fait souvent régner sa loi contre des équipes de deuxième moyenne. C'est même leur histoire depuis qu'on suit le foot. Ouais. Donc, c'est aussi pour la faiblesse de Rennes, c'est aussi lié à ça.
Ah, mais ils ont perdu Terrier aujourd'hui. Enfin voilà.
Ce qui m'impressionne, qu'ils peuvent finir sixième. Je dis pas le contraire. Je le pense pas. Mais ce qui m'impressionne quand même par rapport à leur saison, mais quand vous parliez de tout à l'heure, dont vous faisiez des débats, la Ligue 2 s'est quasiment pliée, quoi. 2 personnes sur 4 à ce moment-là disaient, on se disait que le mercato pouvait peut-être ajuster les choses. Ah oui. C'est qu'ils ont quand même repris des équipes qui avaient un delta de points par rapport à eux. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur une remontada qui est exceptionelle à l'échelle de l'histoire de la Ligue 1.
Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne L'Équipe, on va vous remontrer les images de cette victoire lyonnaise face au Nantais. Jérémy, une victoire 3-1 des Lyonnais.
Oui, avec une Beaujoire à huis clos à cause des fumigènes, parce que les ultras avaient donc utilisé ces fumigènes au dernier match à domicile. Donc un huis clos qui n'a pas gêné les Nantais en début de match. C'est eux qui s'illustrent au début avec ce centre de Mollet pour Matisse Ablin. L'ouverture du score des Nantais donc à la 16e minute de jeu. Son deuxième but de la tête en deux matchs. Ensuite, l'égalisation par Lacazette après une double parade de Lafont. C'est son 14e but en Ligue 1 pour Alexandre Lacazette, le sauveur lyonnais. Malik Fofana pour le 2-1 au premier poteau. Premier but en Ligue 1 pour lui. Il avait marqué déjà en Coupe de France. Et puis le 3-1, c'est grâce à Gift Orban.
Victoire 3-1 donc des Lyonnais. On regarde le classement de nouveau. On écoutera d'ailleurs les entraîneurs, Antoine Comboiré et Pierre Sage, dans l'émission dans quelques minutes. Et ce sera intéressant d'écouter les deux entraîneurs vraiment ce soir. Regardez le classement. Marseille est à un point. Et pour rebondir sur ce dont vous parliez à l'instant, Nabil, question dans la question, est-ce que vous voyez Lyon passer devant l'OM et terminer devant l'OM en fin de saison?
Ça me paraît évident.
De la dynamique.
Ça me paraît évident parce qu'il y a la dynamique sur le terrain, qu'on voit, elle est nette. Effectivement, Lyon, c'est pas toujours génial, mais si on fait le bilan comptable, et à un moment, c'est quand même le critère d'évaluation, c'est assez net la différence. Ce qui est marrant, c'est que
je crois malgré le calendrier que vous voyez là.
Oui, alors je suis d'accord là-dessus, mais je pense que Marseille, qui a encore en plus la Coupe d'Europe, hein, il y a un aller-retour avec Benfica.
Ça pompe de l'énergie.
Il va aussi te bouffer de l'énergie parce que c'est un peu leur dernier coin de ciel bleu, en quelque sorte, parce que le championnat, je pense qu'ils ont fait une croix dessus. Et surtout,
ils ont quand même une Coupe d'Europe à aller chercher aussi.
Ils peuvent être championnat, ils peuvent être
7e. Oui. Mais moi, je pense qu'ils ont pris un coup sur la tête. Et je le vois aussi à travers les coachs. C'est-à-dire que Jean-Louis Gasset, sa réaction me fait dire qu'il y a une forme un petit peu là de
renoncement.
De renoncement.
Même avant le match.
Je dis pas que lui, que quelque part, il se dit, attends, les coachs, ils s'enchaînent, et en fait, on se retrouve face aux mêmes difficultés. À l'inverse, je trouve que, à la fois, le discours de Pierre Sage, et même la restructuration dans les, au niveau du board de Lyon, je trouve que c'est la traduction de ce que tu vois sur le terrain.
La stabilité capitale. Vous disiez le papier de Mélisande Gomez ce matin sur le retour de l'OM après la défaite contre Lille. Bon, tension à tous les étages. Oui. Bon, pas uniquement sur le banc, dans les tribunes. Il y en a un peu partout. Et la dynamique, elle est absolument pas positive. Donc on se demande déjà qui va remplacer Gasset l'an prochain. Les joueurs aussi se posent des questions. Franchement, Marseille,
J'entends bien ce qu'a dit Dev, mais faut jamais oublier, c'est vrai que le board, mais ils ont juste mis cet hiver 50 millions sur la table pour se racheter une équipe.
Bien sûr, tu peux te planter sur le mercato. Et Lyon s'est planté à de nombreuses reprises sur le mercato.
Ce que je veux dire, c'est que nous, on fait des stats d'équipes qui sont condamnées c'est faussé par rapport à cette situation-là. C'est des moyens.
Attends, la question, c'est pas de savoir si c'est juste, la question est de savoir si c'est vrai.
Je voulais dire plutôt que le board, ceci, cela, tu mets 50
millions. Ça compte, ils ont quand même signé un recrutement.
Si le mercato hivernal disparaît, Lyon, on n'en parle pas de cette manière-là aujourd'hui.
Ou s'ils ont les mêmes moyens que les équipes avec lesquelles ils étaient à ce moment-là.
Et c'est ça petite parenthèse quand même, parce que j'ai checké. Rennes, ils ont perdu contre Strasbourg et Lorient, il n'y a pas plus de 3 semaines. Hein.
Ouais. Donc, et Lorient à domicile.
Et je suis d'accord, leur fonds de commerce, c'est de mettre la misère à peu près à tout ce qui est en dessous d'eux. Et quand ils leur mettent la misère, c'est souvent des 4-5-0. Et là, ils ont été un peu plus fragiles.
Vraiment, je ne vous ai pas entendu sur Lyon devant Marseille en fin de saison. Vous avez vu le calendrier des Lyonnais.
Pas facile. Je crois que Marseille a un vrai potentiel qui, pour moi, est supérieur aux Lyonnais. Quand ils ont toute leur équipe, quand ils ont tous leurs joueurs.
Attends. Je ne suis pas d'accord. On va parler de ce devant.
Je pense que Raymond n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire lui.
J'ai le droit de donner mon avis. Si on les prend un par un, ça c'est la rigolade.
Non, tu peux pas.
Laisse le président terminer. Luis Enrique.
Non, mais tu me prends les ceux qui jouent pas. C'est normal.
Ceux qui jouent pas à Lyon, ils rentrent, ils font la diff.
Non, mais ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs à ceux qui jouent à Marseille.
Je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'ils sont supérieurs qu'à ceux qui...
Non, je veux dire, sur l'équipe type de Marseille, sincèrement, je trouve qu'elle est plus solide. Je veux dire,
quand
t'as l'équipe au complet à Marseille, je veux dire, c'est une équipe.
C'est qui l'équipe au complet?
C'est qui l'équipe au complet? Ça n'est pas arrivé une seule fois dans la saison, vraiment.
C'est qui l'équipe au complet?
Je vais aller au secours de. Je vois pas vos Lyonnais là, je les vois pas mettre 4-0 à Villarreal. Non mais je c'est-à-dire au taquet. Alors évidemment, il faut faire rentrer 3-4 joueurs qui sont pas là. Faut Mbemba, faut Claude. On est d'accord.
C'est l'histoire d'un match.
C'est de la fiction. Non, c'est pas de la fiction.
Mais c'est l'histoire d'un match. Au retour, ils ont rien compris.
Mais non, c'est l'histoire d'un match.
C'est l'histoire d'un match parce qu'il n'y a aucune cohérence. Si c'est pas l'histoire d'un match, au retour, ils se font pas retourner.
Mais non, parce qu'ils ont gagné 5 matchs de suite, donc c'était l'histoire de 5 matchs.
Ils ont joué des ambulances. Quand ils ont joué des équipes de foot, ils ont plus existé.
Ah non, c'est vrai que Lyon aujourd'hui, alors c'est type, ils ont affronté tip top. Alors là, c'était le Milan AC pour la suicide. Non mais alors, c'est magnifique.
Là où t'es malade, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est le gars,
ils nous parlent. Ils sont dans leur team.
Déjà sur le duel, je me désolidarise de ce qu'il a dit. J'étais pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Ensuite.
Ils se désolidarisent de toi.
Non, j'étais pas d'accord quand t'as dit que c'était pas une bonne équipe.
Non, c'est pas une bonne équipe.
Là, Greg, il nous explique qu'ils ont mis 50 barres à l'intersaison. Donc quand tu mets 50 barres, c'est que tu t'achètes de la qualité. Et là, il
pas toujours.
Oui, mais là,
non, là c'est le cas.
Oui, là c'est le cas. Oui, Benrahma, c'est le cas.
Ok, mais il y en a eu d'autres aussi. Ouais. Et là, concrètement, maintenant, c'est en dessous individuellement de l'OM.
Parce que l'OM est affaibli. C'est ce qu'a voulu dire Raymond Domenech. Mais si l'OL est affaibli.
Oui,
aujourd'hui, ils sont affaiblis.
L'OM mais... dans l'état oui. actuel, mais non, l'OM sur cette équipe, sur l'équipe qu'ils ont de base,
quel acteur
de
base, studio, Raymond. Quel acteur studio.
Ils sont beaucoup plus.
Non, mais je crois qu'il dit.
Non, parce que lui, il croit pas ce qu'il dit.
Attends, mais.
En plus, j'aimerais
bien. Tu sais très bien, tu connais.
Il y a un seul match entre.
Ah, voilà, on va le demander à
Jean. Il y a un seul match entre Lyon
comparé.
Il y a un seul match entre Lyon et Marseille, dans le secteur offensif, c'est Aubameyang, Lacazette. Pour le reste, je ne titularise aucun joueur de l'OM. Aucun joueur de l'OM, je mets que des joueurs de Lyon que j'ai vu ce soir.
Vous mettez O'Brien.
Cherki, c'est Maradona là-bas.
Ouais, non, mais vous mettez O'Brien plutôt que Valère.
Mais au milieu de terrain.
Non, mais je te parle du secteur offensif qui fait la différence.
Vertu, c'est vrai que non, je vais jouer Nouama contre Vertu.
On peut m'écouter. Je parle du secteur offensif.
C'est un milieu défensif.
Le calendrier de Marseille. Raymond,
vous jouez lié gauche.
Le calendrier de Marseille, Jérémy Jean Lagro.
Ils vont avoir une double confrontation contre Benfica, donc ils vont forcément aussi laisser des plumes dans leur championnat. Ensuite, ça va être Toulouse. Nice, Lens, Reims, Lorient et Le Havre.
Ah non, c'est cadeau.
Donc
c'est
cadeau aussi. Bravo. Reims, Lorient, Le Havre qui peuvent.
Ça vous fait un peu réviser votre truc peut-être sur Marseille. Hein.
Non.
Ah bon. Oui.
On va revenir dans un instant sur Lyon derrière.
C'est plus facile le
derrière ou devant Marseille
de Lyon.
Oui, mais sauf que Lyon est plus fort que Marseille.
Tagliafico à gauche.
Mais il y a la Coupe d'Europe effectivement pour Marseille.
Excuse-moi, Karim. Tagliafico à gauche.
Je vais pas refaire tout de suite.
Ulysse Garcia là.
Il est bien là.
Mais il y en a, il est champion du monde. Il y en a, je sais pas. Sur le marquage là, face à Pierre Salini, il savait pas où l'habiter.
Non, c'est vrai. Non mais je rends l'hommage à Nabi. Il est vrai que Tagliafico nous fait une saison mais merveilleuse. Je veux dire, fallait que ce soit signalé.
Vous avez entendu cette sonnette ou il y a comment
carton
jaune, Monsieur Schneider. Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais en conférence de presse, on l'écoute.
Bonsoir.
L'équipe aime bien les relations en situation. On a vu plusieurs fois cette année, notamment à l'extérieur, c'est encore une fois aujourd'hui le cas.
Oui, c'est plutôt positif parce que ça démontre toutes les valeurs qui nous animent pour gérer notre ambition, dans un premier temps, qui était de se maintenir en Ligue 1 et maintenant qui est de vouloir aller titiller la 7e place. Donc on est vraiment dans cette logique, les joueurs ne lâchent jamais, ceux qui rentrent apportent ce qu'ils doivent apporter. Pour valoriser le travail qui était bien fait par les titulaires, donc on est très content de ça, oui.
Vous avez démarré le match, et puis qu'est-ce qui s'est passé après le match ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'on voulait attaquer, je pense qu'on a attaqué tout le match. Lorsqu'on essayait de déséquilibrer l'adversaire, on a fait des erreurs pour combiner dans les petits espaces. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on prend le premier but. On perd le ballon à 90 mètres de notre ligne de but et on subit une attaque rapide. Ça s'est produit 2-3 fois dans le match. C'est le lot du fait de dominer et d'être en attaque placée. On a à la fois été, selon moi, pas forcément dans les bonnes initiatives à ce moment-là pour combiner ensemble et du coup, on a voulu privilégier un peu trop de fantaisie par rapport à de l'efficacité. On a été aussi, encore une fois, selon moi, peut-être pas assez performant dans le contre-pressing à la perte et du coup dans le marquage préventif. Et l'accumulation de ces trois déficits a permis à Nantes de se créer des situations en attaque rapide. Mais Anthony Lopez a aussi fait ce qu'il fallait pour nous laisser dans ce match. Voilà, et du coup, ça nous a permis de rester dans le match et de connaître le scénario que vous avez vécu avec nous en fin de match. En fait, au lendemain de notre qualification en finale de Coupe de France, on a réuni les joueurs pour assumer cette ambition-là avec le staff, en se disant, voilà, la vision qu'on a, c'est de jouer cette 7e place jusqu'à la fin de saison, ou mieux. Et on sait que ce parcours-là, qui se construisait sur 7 matchs de championnat plus un match de Coupe de France, sera peut-être semé d'embûches. Mais dans tous les cas, la manière dont on s'est maintenu en Ligue 1 en obtenant les 35 points lors de la dernière journée, on s'est dit qu'on ne lâcherait jamais, qu'on irait jusqu'au bout et qu'on croirait en cette chance, aussi infime soit-elle, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au soir de la 14e journée, je le dis souvent, il y a une statistique qui était sortie qui annonçait que notre pourcentage de chance de se maintenir en Ligue 1 était quasiment de 0%. Donc on a été capable de renverser cette situation-là. Donc pourquoi pas rêver encore plus haut et plus grand ? Et ce serait magnifique de pouvoir vivre ça ensemble et que ça marque un peu l'histoire de cette équipe, l'histoire de ce groupe qui aura réussi à permettre à notre club dans un premier temps de rester en Ligue 1 et à continuer à être ambitieux parce qu'on a un club qui est ambitieux depuis très longtemps. Vous savez, il me semble que c'est en 1987 quand Jean-Michel Aulas achète le club alors que le club est en Ligue 2. Enfin, en D2, en ce temps-là, sur les maillots, c'était écrit « Lyon, ville européenne », alors qu'on était en D2. Donc ça nous a toujours obsédés que de jouer l'Europe et vivre l'Europe. Donc c'est pas parce qu'on est pas forcément bien au classement qu'on n'y pense pas. Et donc quand on y pense, on est capable de mettre les actes en face.
Quand tu changes aussi un petit peu ton schéma entre Evan et Chakin, on sent qu'il y a plus de co-offensif aussi. C'est là que peut-être plus qu'un milieu de match.
En fait, ce qui se passe, c'est que je fais ce choix-là, puisque Corentin Tolisso et Maxence Cacré, qui jouaient relayeurs, lorsqu'ils étaient dans l'interligne, on avait vraiment du mal à les trouver, parce que je pense qu'on était trop statique dans nos positions pour leur ouvrir des lignes de passe. Et donc, pour pallier à ça, Corentin et Maxence, de manière un peu moins prononcée, décrochaient sous la ligne pour toucher le ballon. Donc, quitte à jouer avec ce système de jeu, autant avoir un spécialiste du poste en numéro 10 qui est capable d'accélérer le jeu dès qu'on touche l'interligne. Et Ryan Cherki l'a très bien fait lorsqu'il est entré en jeu. Et on finit souvent nos matchs de cette manière. C'est bizarre, mais souvent ça nous réussit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on commencera forcément comme ça la prochaine fois. Ça veut simplement dire qu'on a des alternatives pour gérer des problèmes tactiques ou en tout cas des non-réponses tactiques à des problèmes de jeu que nous impose notre adversaire.
Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais après la victoire de son équipe. On va réagir un peu.
Masterclass. Sur
ce, ouais, franchement, discours d'une clarté exceptionnelle.
À montrer à tous les entraîneurs. On peut parler de foot, on peut parler simplement, on peut analyser à chaud même un match et donner des réponses sans dévoiler les secrets de son effectif. C'est un bonheur.
Non, mais ils ne savent pas tous le faire. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui ne savent pas le faire.
Qui
sont hélas, c'est comme ça. C'est-à-dire, lui, c'est le faire. Franquès, c'est le faire.
Il y a une clarté entre
le bris, c'est le faire.
Il y a une clarté entre les idées et les mots. Et en plus, tu sens que lui, il n'a pas. Enfin, je ne sais pas quelle est sa position par rapport à comment il se projette dans ce club. Et tu sens que lui, il n'y a pas trop de mind games, quoi. Il n'est pas
dans l'ambition personnelle.
Exactement.
Ou dans la com.
Sans doute qu'il en a.
Ou dans la communication.
Sans doute qu'il en a.
Mais il ne l'affiche pas, en tout cas.
Exactement. Et puis surtout. En fait, ça a commencé dès le début, parce que c'est Greg qui disait « je vois pas toujours, voire pas souvent même dans certains cas, une équipe forte. Ils ont les résultats, mais ils n'ont pas toujours été très bons. »
Il donne la réponse. Hein.
Exactement. Mais à chaque fois, vous reprenez à chaque fois ses interventions d'après-match, lui, il était sur le contenu. Il n'était pas du tout sur « on a le résultat, c'est important pour préserver la dynamique ». Il ne se contentait pas de ça, alors que c'était la mission qui lui était assignée. On ne lui a pas demandé « au fait, tu construis
très clairement. »
Et lui est parti sur le raisonnement inverse, et pour obtenir ses résultats, il faut quand même construire quelque chose. Ça change tout aussi dans l'approche.
Souvenez-vous de la phrase de Jean Anouilh, l'auteur des théâtres, « la sincérité est un calcul comme un autre ».
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il a aussi. Non, mais il fait passer aussi une image agréable. Gardez ça en tête, messieurs.
On n'est pas non plus forcé de croire Jean Anouilh.
Si tu dis.
On n'est pas obligé de boire non plus le propos de Jean Anouilh.
C'était pas un idiot. Hein.
Non, c'était pas un idiot.
C'est une possibilité, mais dans son cas, je pense
pas. Oui, voilà.
Il est peut-être totalement sincère et.
Il vous plaît, Riquet. Vous plaît.
Oui, comment. Qu'est-ce qu'on veut dire? On est sorti d'une catastrophe d'entraîneur au début de saison, avec une équipe qui était dernière du championnat.
Antigone.
Et tout d'un coup, ils achètent des joueurs, ça réussit, ils trouvent les bons joueurs, mais il a réussi
à les
ressortir quand même d'une situation qui était catastrophique. Il s'exprime bien, les joueurs sont contents, il remet tout le monde au niveau. Je veux dire, même ceux qui étaient à l'époque qui n'ont pas été rachetés, ils étaient la tête dans le sac. Et tout d'un coup, ils sont redevenus des joueurs de football.
On peut pas enlever ça.
C'est quand même.
On parle beaucoup des 50 millions d'euros dépensés cet hiver. Alors effectivement, ça compte. Ça peut être considéré comme. Mais c'est pas une garantie de succès.
Non.
C'est pas une garantie de succès. Surtout à Lyon. Lyon a fait beaucoup de chèques ces années passées pour des recrutements
Et on peut même aller plus loin.
Ratés, complètement ratés.
On peut même aller plus loin parce qu'en fait, on dit il y a un avant, un après. Il prend l'équipe plusieurs semaines avant cette fameuse trêve hivernale.
Et il réamorce la
pompe. C'est d'ailleurs pour ça, parce que lui, au départ, il est là pour quoi? Il est là pour faire quelques semaines jusqu'à la trêve.
Un intérim
jusqu'à la trêve. Faut le rappeler, parce que là, maintenant, on a oublié l'histoire. Et à la trêve, on va... mais il se trouve que ça marche plutôt pas mal avec lui.
Ouais. Ça tourne. Et puis, je vois le premier match de Pierre Sage, je suis à Lens, je les vois à Lens. Et j'avais mes confrères du Progrès, donc ils les suivent. Et
ils en ont fait.
Ils perdent 3-2. Mmh. Et mes confrères du Progrès disent que c'est leur meilleur match de la saison. Ouais. Très sincèrement, eux qui ont tourné, j'en parle modestement.
Pierre Sage le dit d'ailleurs. Pierre Sage le dit en conférence de presse, il dit j'ai aimé le contenu.
Voilà.
À un match qu'il avait gagné à Montpellier,
où il avait expliqué, détesté.
Il avait gagné en fin de match, un peu comme
effectivement, effectivement,
j'ai pas aimé mon équipe aujourd'hui. Ouais. Mais sur Pierre Sage, Nabil, et après on va passer aux notes des joueurs lyonnais, il le dit là, il dit moi au sort du match précédent en championnat, 35 points. Le maintien est validé dans mon esprit. Mmh. Donc, j'ai réuni dès le lendemain avec mon staff
après Valenciennes,
l'équipe, après la demi-finale de France, pour leur dire, maintenant, on va aller chercher la 7e place.
Oui, parce qu'il connaît, je pense qu'il a une maîtrise, un minimum, peut-être pas eu de vestiaire de star jusqu'à présent, enfin, ou de gros joueurs, mais il a quand même une idée sur l'être humain. Il y a forcément une décompression, un relâchement. Et lui, il attend pas, quoi. Tout de suite, il est là, il est au marquage.
Il leur refixe un objectif.
Il remet de l'exigence. Donc voilà. Alors moi, pour être honnête, j'espère pour lui que c'est la finale de la Coupe de France, ça va bien se passer. Ce serait une belle histoire s'il venait à valider avec un titre, d'autant que Lyon, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont rien.
2012.
Gagné. Et je me posais la question de. J'ai hâte de le voir la saison prochaine.
Ouais, mais aussi. Non, mais t'as raison.
Sur sa qualité. Mais là, il sera avec un autre costume, il sera attendu autrement.
Un peu comme Will Steele, finalement, à Reims, toute proportion gardée, évidemment. Bien sûr, c'est un peu le même type.
Exactement. Non, mais la manière dont il explique la sortie de Tolisso, le placement de Cacré, remplacé par Cherki. Bon, je trouve ça remarquable.
Ça peut aussi
quand t'es journaliste, que tu suis du foot, t'as envie que les gens te parlent de foot et de comprendre des choses. Et avec lui, c'est un bonheur total.
Mais ça peut faire une. Parce que tout à l'heure, on parlait de Francaise, le point commun avec la façon d'expliquer les choses. Francaise, c'est pareil. Ouais. Quand il est à Lens, c'est un intérim.
Il arrive pour 2-3 matchs.
Exactement.
Hein. Et Covid.
Et il y a Covid, donc il valide la montée de Lens. Bon, les choses se font bien. Et il se trouve qu'au il reste en place. Et aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est référencé, qui est même demandé peut-être par d'autres plus grands clubs.
C'est très dur de faire ce passage. C'est intéressant. C'est un commando.
T'as raison.
C'est un commando. Il est sur une mission commando. Il doit sauver le club.
C'est pas un général.
C'est pas ce que je veux dire. Mais le boulot d'avoir une équipe pour la saison son équipe, c'est très différent. C'est-à-dire que là, t'es l'architecte. Là, tu peux pas leur faire. C'est un autre métier en fait.
Choisir ses joueurs.
Choisir ses joueurs, investir sur tel ou tel. Donc c'est pas. Alors on lui interdit rien. Moi, je suis comme Nabil. Je lui interdis rien. Mais c'est pas le même boulot. Il faut quand même avoir ça en tête.
Ouais, mais il l'a pas placé. Lui, il est pas arrivé pour un commando. Je veux dire, il a mis des objectifs courts à chaque fois. Le premier, c'était jusqu'à la trêve. C'était arriver à redresser un petit peu. Après, c'était de se dire se sauver. Et là, maintenant, il le dit. C'est
prochaine étape.
Il y a une autre étape. À chaque fois, il arrive à mettre
des horizons derrière le.
Complètement. Ouais. Et à remettre le niveau de concentration, de motivation des joueurs. Il a un bon exemple parce que je l'ai vécu à Lyon quand j'étais entraîneur, jeune entraîneur, ça nous est arrivé. J'ai dit pour se sauver, je me souviens à l'époque, c'était 38 ou 39 points. Et on avait une équipe de jeunes joueurs. On s'est dit, il fallait absolument. On est arrivé à 7 journées de la fin, à ce chiffre-là. On n'a plus gagné un match.
Ouais. Bien sûr.
6 matchs derrière, il a fallu qu'on gagne le dernier absolument parce qu'on était.
Les mecs étaient en vacances.
Ils étaient partis, ça y est, c'est fini.
Si t'avais dit 42 points, peut-être qu'on aurait gagné 2 de plus.
Ils avaient mis leur étape à l'été.
Ils ont relâché bien avant la ligne.
Ce qu'il a fait là, de reprendre, de refixer l'objectif, c'est du management de haut niveau.
Regardez, Pierre Lescure, invité de l'EDS, je le rappelle, invité exceptionnel demain soir à 22h50 avec Olivier Ménard ici sur ce plateau. On se projettera notamment, Pierre Lescure, ancien du Paris Saint-Germain, se projettera forcément sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Barça en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera mercredi les notes, on va noter les joueurs lyonnais, notamment on va attaquer par Alexandre Lacazette. Vos petites plaquettes s'il vous plaît messieurs. On note le capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette.
Ah non, mais je trouve.
Il
lui a quand même explosé l'arcade.
Raymond, c'est parti. Allez, Guillaume. 6 pour Guillaume, 7 pour Dave Apadou, 7 pour Greg Schneider, 7 pour Nabil Djellit et 8 pour le président Greg.
Ouais, je veux bien parler. Il fait un truc. Son premier but, il le met en fait, c'est un contre. C'est-à-dire qu'il a un geste, il tacle en fait. Mais il tacle pas sur le ballon, il tacle sur la trajectoire du ballon que dégage le mec.
Ça,
quand même, c'est un truc de buteur. Que même les buteurs d'élite n'ont pas tous. C'est-à-dire cette espèce de... Quand même, tu marques en contrant un ballon, quoi. Je veux dire, c'est... Et il y va pour marquer quand même, puisque le geste, il sait que ça va se terminer là. C'est quand même un autre joueur.
Et il fait un geste d'une classe incroyable en première période.
Il se décale sur le côté droit.
8 pour Alexandre Lacazette, le capitaine.
Oui, parce que pour moi, il est le symbole de cette équipe. il réussit pas tout. Il se bat, il s'accroche. Le but qui marque, c'est le symbole de cette équipe lyonnaise qui s'est accrochée et qui revient.
Et c'est un troisième ballon plus sur laquelle il va.
Ouais, il remonte tout le monde. Il est mauvais caractère. On le voit des fois gueuler, lever les bras, ranimer cette équipe-là. Moi, je trouve qu'il amène, je veux dire, cette agressivité de temps en temps.
Le haut niveau.
Même si le recrutement est une réussite, quand il n'est pas là, ça se voit. Quand même.
Je rajoute beaucoup trop encore.
Ouais. J'ajoute
un truc à ce que tu dis. Pour moi, il le symbolise effectivement par ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas tout, il se bat comme un chien, mais par contre, il a quand même un talent supérieur à 90%, si ce n'est plus, des attaquants de Ligue 1.
Non, mais c'est plus.
Il n'y en a que deux devant lui.
Voilà.
Ce qui est bien, c'est la hiérarchie qui a été un peu établie, même si parfois ça peut tourner, mais les bonnes associations avec deux profils différents, Benrahma un peu en rupture, et Nouama à droite là, qui prend le périphérique extérieur.
Et on a vu ses coéquipiers l'oublier en excellente position, faire les mauvaises passes alors que lui avait le coup gagnant. Enfin, je veux dire, en plus, voilà.
Et il a eu, quand vous vous souvenez de cette fameuse action de la 52e, il a eu très peur de ne pas finir le match.
Oui. On va noter Anthony Lopez.
Il va tout de suite faire garde sous le coude.
Nabil, on va noter Anthony Lopez aux plaquettes, le gardien de but lyonnais. 5 arrêts pour Anthony Lopez ce soir. Les notes, allez-y messieurs. Guillaume, 8 pour Guillaume Dufy, 8 pour Dea Padou, 7 pour Greg, 7 pour Nabil Djellit et 8 pour Raymond Domenech.
Je trouve que c'est un gardien qui a énormément évolué, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé,
Il partira en fin de saison.
Moins de gestes superflus, inutiles, d'agacement. Par exemple, pendant cette période un peu floue, là, encore de la 52e minute, on l'a vu sur le bord du terrain.
Discuter avec Comboiré,
prendre les consignes auprès de Comboiré. Non, j'ai trouvé, il est sûr, il a été très très bon. C'est l'homme du match, hein. Parce que 5 arrêts, c'est pas 5 arrêts
où il plonge pour la
photo. C'est 5 arrêts vraiment décisifs.
Il les maintient en vie.
Ouais, il les maintient en vie.
C'est-à-dire que sans un Lopez à ce niveau-là en première période, il n'y a pas le renversement possible. Hein. Il peut finir à 2 ou 3-0 contre eux en première période et derrière,
Je trouve que ce qu'il a changé, c'est qu'il prend plus de risques avec le coup de pied.
Oui.
Il a fait quelques erreurs qui ont mis le feu. Ouais. Et là, maintenant,
il a gagné en sobriété, il allonge, il sait faire la différence, il se met plus en difficulté.
Il joue sur ses points forts, c'est-à-dire c'est quand même un gardien de ligne exceptionnel qui sort très très vite.
Juste pour conclure.
J'aimerais avoir clairement l'idée. Pourquoi on le sort la saison prochaine? C'est quelque chose que j'ai pas tout à fait saisi.
Apparemment, le gardien numéro 2.
Ah, peut-être, mais t'as quand même un mec éprouvé de Ligue 1, t'as quand même un mec à 300 matchs de Ligue 1.
Apparemment, ils en attendent beaucoup. C'est un gardien qui a été numéro 3 en sélection brésilienne. Quand tu sais que les deux, c'est Alisson et Ederson, il y a quand même un bon niveau.
Investissement fait sur lui.
Donc voilà, il y a un investissement.
Il y en a peut-être un qui est moins cher que l'autre.
Le résultat du premier super duel, victoire de la paire Apadou-Dufy à ma gauche. Du coup, bravo messieurs.
Il y a un match nul contre Lyon, tu peux inverser.
On va parler de Nantes dans un instant, messieurs, mais Antoine Comboiré, s'il vous plaît.
Moi, je me suis désolidarisé.
Allez, carton jaune pour Nabil Djellit. Allez, vous entendez pas finalement. On y va. Deuxième carton jaune, c'est pour Greg Schneider. Et on arrive avec. Non. Le deuxième carton jaune donné dans cette émission. Ne vous inquiétez pas. Et si vous continuez, je vous mets un rouge. C'est parti, Antoine Comboiré.
Coach, quel est votre bon sentiment après ce match un peu bizarre?
Ben, grosse déception parce que donc on a mené au score, on a été capable d'aller poser des problèmes à cette équipe de Lyon, on a eu des balles de 2-0 même avant la mi-temps, et puis après on revient, on n'est pas très bien dans le jeu, je trouve fébrile, et puis surtout donc on peut mieux faire avec le ballon, dans l'utilisation du ballon. Puis après, donc faut croire que la faute qu'a subi le petit Nathan Zézé là, ça a un peu perturbé les joueurs parce que donc après on a arrêté de jouer, et puis surtout donc on a dans mon esprit pas été compact, pas mieux défendu, et puis surtout donc là le premier but nous fait mal, quoi. Et derrière, après, on n'est pas capable de rester solide. Voilà, on va dire que Lyon a bien joué les coups, et puis à l'arrivée, ça fait 3-1, quoi. C'est une grosse déception.
Justement, sur le fait de jouer concernant Nathan, de respecter quelque part l'intérieur.
Alors on va dire encore que je râle, mais concernant le résultat, il n'y a rien à dire, ok ? Il y a 3-1. Mais c'est vrai que j'en veux beaucoup à l'arbitre aujourd'hui. Parce que le quatrième arbitre, il me dit, M. Comboré, on a checké et là-haut, ils nous disent que c'est un coup d'épaule. OK. Alors, bien sûr, je lui dis plusieurs fois, demandez à M. Brizard d'aller voir là-bas. Moi, il y a ça que je souhaite. Je crois que tous les entraîneurs là et les joueurs, on se bat pour ça. Donc, qu'ils aillent voir là-bas. Et puis après, ils prennent la décision qu'ils veulent. Mais au moins, il y a ben, les deux qui supervisent les images, quoi. La VAR et l'arbitre. Et là, donc, pour eux, il y a pas faute, quoi. Ou s'il y a faute, mais en tout cas, c'est un coup d'épaule. Et après, je vais dans le vestiaire. Et quand je vois les images, je suis scandalisé, quoi. C'est le mot. Voilà. J'ai les boules parce que voilà, on fait confiance au corps arbitral. On fait confiance. Et là, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, mais sur le geste de la casette, même si c'est involontaire, comme ils le disent, l'arbitre, c'est carton rouge tous les jours. C'est un coup de coude. Vous pouvez m'expliquer comme vous voulez. Voilà. Dans 10 ans, dans 20 ans, je continuerai à dire voilà, il y a carton rouge.
Donc voilà. C'est intéressant et ça rejoint un peu vos propos, Guillaume Dufy.
Ouais, pour moi, franchement, sur la casette. Ça veut dire que, donc, si j'ai bien compris, il parle avec le quatrième arbitre qui lui dit ils ont checké là-haut. Enfin, là-haut, oui. Je ne sais pas où ils sont cachés.
Dans le camion, dans le car.
Et on lui dit, c'est un coup d'épaule. Enfin, un coup d'épaule qui pète une arcade.
Surtout, c'est pas un coup d'épaule.
L'épaule de Schwarzenegger ou, je sais pas, de Terminator. Hein, une épaule en fer, quoi. C'est lunaire, mais bon, voilà. Et on le voit bien, Lacazette. Il sait bien qu'il a fait une énorme connerie. Il sait bien qu'il a mis un énorme coup de coude et qu'il a peur et qu'il va très vite voir le joueur pour prendre des nouvelles du gamin. Mais franchement, c'est vrai que ça change un peu tout parce qu'ensuite, Lacazette est acteur et
d'ailleurs, Antoine Comboré le dit juste après, voilà. il dit peut-être avec un joueur de moins,
il dit même pas que ça, il dit que ça a perturbé son équipe.
Oui, peut-être.
Et c'est vrai qu'on a un peu. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? On a un peu senti.
Ça a coupé.
Ouais, il y a eu un petit. Alors, on s'est arrêté 6 ou 7 minutes quand même.
Donc, ça a été faute de relance à ce moment-là.
Voilà, donc au-delà de la présence de Lacazette, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je suis d'accord avec Guillaume, ça tourne. Enfin, c'est là que ça tourne dans le jeu.
Après, une équipe, elle doit être capable aussi de gérer ce moment-là. Effectivement, il y a une interruption. Moi, je suis d'accord, il y aurait pu y avoir. Et voilà, Greg le dit, ils ont pris une autre décision, etc. L'équipe, elle ne doit pas s'effondrer, je parle de Nantes.
Oui, bien sûr,
on va faire face. Voilà, à un moment, ces aléas, ils connaissent très bien, ils ne jouent pas au foot depuis la semaine dernière.
C'est pas la raison. Si c'était la seule raison, à chaque fois qu'il y a un blessé...
J'aurais bien voulu avoir la réaction de l'arbitre si le joueur était sorti, définitivement.
Une question sur Nantes, justement. On continue et on conclut d'ailleurs sur ce match-là. Cette défaite nantaise est-elle inquiétante en vue du maintien? Habillage dans de la mer. Guillaume Dufy.
Il y a pire en Ligue 1.
Donc, non.
Non.
Dave.
Je les vois armés pour s'en sortir.
Ouais.
Greg. Pour moi, ils seront dans la sauce jusqu'à la dernière minute.
Voilà. Donc, oui pour vous.
Ouais.
Nabil.
Et si c'était la fin de l'effet Comboiré?
Donc, plutôt oui pour vous.
De toute façon, quand t'es dans ce marécage-là...
Avant d'écouter le président.
Je veux dire, t'es
prenez
pas
la
bien,
main, Nabil.
Qu'est-ce qu'il dirait Jean Anouilh, là, par exemple?
Il dirait Antigone.
Ah, oh là 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 là.
Il n'a plus la place.
De rien, Nabil.
De rien, Nabil. Tu m'as fait une passe sautée.
On va juste rappeler que pendant la conférence de presse d'Antoine Comboiré, il nous a répété 4 fois, j'ai trouvé Antigone. Il faut que je la place. Passe décisive de Guillaume Dufy pour Nabil Djellit. Vous êtes lettré, vous êtes érudit, bravo.
Je remercie mes instituteurs, mes professeurs, s'ils me regardent.
De la lèche. Nabil, cette équipe nantaise, elle vous inquiète? Vous parliez en souriant de l'effet Comboiré. Il y a eu un bon match à Nice, une belle victoire nantaise à Nice la semaine dernière.
Face à une équipe de Nice qui est beaucoup moins bonne.
Là, ce soir, elle est retombée dans ses travers pour vous.
Première mi-temps, les gars.
Il faut un bon match.
Là, c'est le problème de l'équipe. Tu la prends sur le papier, tu te dis, elle n'a rien à faire là. Enfin, ou du moins, elle doit être un peu plus haut parce que Mollet, Mostafa, Moussa Sissoko, le gardien Lafont qui était probablement un des meilleurs gardiens français là, depuis pas mal de temps en Ligue 1, tu te dis, ils n'ont rien à faire là. Sauf qu'en fait, souvent dans le football, t'as des équipes qui ont rien à faire là, mais qui sont quand même là. Ouais, et vrai. Parfois dans le football, t'as des équipes qui jouent bien au football, qui proposent du jeu et qui finissent par être reléguées. C'est déjà arrivé. Hein, ouais. J'ai vu des équipes qui jouaient bien. Je me dis non, mais jamais de la vie, ils vont être relégués. Et ils sont quand même passés du mauvais côté de l'histoire.
Oui, mais Nantes en début de saison. C'est pas l'équipe dont tu as la garantie qu'elle va jouer
l'Europe.
C'est une équipe qui flirte quand même avec le pire depuis maintenant.
Avec les barrages, avec le match. Voilà.
Je pense que si tu veux.
On rappelle que cette équipe s'est sauvée à la dernière journée l'an dernier.
Et au barrage il y a 3 ans.
Au barrage avec Comboré.
Donc ils sont tout le temps en danger alors.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une équipe qui peut être surprise de se retrouver là. Ils sont prêts à.
C'était pas Lyon, quoi. C'était pas la situation de Lyon.
Non, mais voilà, exactement.
Non, mais ils sont sur un plus grand pied que Le Havre, que Metz.
Individuellement,
que
Fermont, ils ont
Non, mais c'est un autre budget, c'est un autre.
Mais pour moi, ils ont plus de ressources.
Je suis pas sûr, parce que c'est à un moment donné, leur meilleur joueur dans le champ, en tout cas, est blessé.
C'est pas.
Et puis, ils font pas. Alors, Abline, bon, c'est vrai qu'il performe, mais il va pas non plus être à 1000 tours.
Lui qui a toutes les occasions. Ouais. Qui marque,
oui, non, c'est vrai, mais je vois pas. Les autres équipes ont des qualités. Moi, je vois Le Havre joue bien. Sincèrement, il manque un tueur devant, mais Le Havre joue bien.
Regardez le calendrier. Je sais que vous aimez ça, président. Le calendrier des Nantais. Les trois dernières journées, regardez. Brest-Nantes, Nantes-Lille, Monaco-Nantes.
Non, puis à Montpellier, va jouer à Montpellier.
Donc Brest, Monaco et Lille sur les trois dernières
journées. Ils sont pas bien.
Tu vois, regarde vraiment
sur le calendrier. Déjà le prochain, ils vont au Havre.
Bah c'est acquis tout double. Acquis ta ou double.
Ils sont égalité.
Il y a un derby, grand derby.
Donc
ça vous inquiète aujourd'hui.
Leur calendrier m'inquiète.
Ouais. Je vais vous dire un truc. Sincèrement, chaque match là, c'est acquis ta ou double.
Allez, deuxième carton jaune.
Ah merci.
Merci Karim.
Prison s'il vous plaît. Prison. Carton rouge.
Karim Abdelhadji.
Comme t'avais pas entendu, il l'a fait deux fois.
Je l'ai replacé. C'est la raison pour laquelle je donne un deuxième carton.
J'ai apporté une variante.
La prison pour Abdelhadji. Normalement, on n'a plus trop de parler. Là, on revient dans un instant. On va parler du haut de tableau, la course pour la Ligue des Champions. Le top 4, le fameux top 4. On va se poser la question s'il est déjà acquis ce top 4. Et on parlera aussi du Paris Saint-Germain à J-3, presque J-2 de ce match contre le Barça. Tout de suite. Allez, de retour dans l'équipe du soir où les débats continuent évidemment pendant les pubs. On va libérer de la prison Nabil Djellit, s'il vous plaît. On le libère. Nabil, il est en prison. On a vu une pub en prison, franchement, ça va.
C'est bien fait.
Minutes de honnêteté, c'est bien fait. L'autre tableau, on a parlé de la victoire lyonnaise contre Nantes ce soir. On va parler des places européennes, mais qualificatives même pour la prochaine Ligue des Champions, ou du moins pour les barrages. Avec vous, Jérémy Gernin Gros, il y avait des matchs aujourd'hui.
Oui, exactement. Avec le match de 17h, c'était un choc pour l'Europe. Monaco-Rennes avec un seul but, c'est Monaco qui a pris l'avantage dans cette rencontre grâce à un but de Magnès Akliouche servi par Ismaël Jacobs. Akliouche donc qui donne le but de la victoire à la SM qui retrouve grâce à ce but le podium. Vous allez voir, il y a aussi eu deux cartons rouges ici pour cette semaine de Terrier. Là, il n'y a aucun débat. Et donc ensuite, le deuxième carton rouge, c'était pour deux cartons jaunes pour Thilo Kehrer, l'ancien parisien. La SM retrouve le podium. Rennes enchaîne un troisième match sans marqué. Et puis Brest, à 13h, avait battu Metz dans un match où il y a eu 7 buts. C'est le match le plus prolifique de cette journée. Doumbia à la 30e minute de jeu pour le 2-1. Ensuite, Mounier pour le 3-1 à la 38e. Satriano, ensuite à l'heure de jeu pour le 4-1. But donc de l'Uruguayen. Metz qui va revenir grâce à Mika Otadze qui marque un doublé et donc qui va permettre à Metz de revenir à 4-3 sur une grosse erreur de la défense brestoise. Brest se rapproche de la C1 à 9 points de la 5e place. Et il y a un chiffre qui laisse penser que ce quatuor pourrait rester le même et rester figé. Regardez ce chiffre donné par Opta. Dans l'histoire récente, jamais un club ne s'est qualifié en C1 avec 5 points de retard au classement à ce stade de la compétition.
D'où la question qui suit. Paris, Saint-Germain, Brest, Monaco, Lille. À 6 journées de la fin, tient-on déjà le top 4 définitif de cette saison en Ligue 1? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Si vous connaissez l'émission, mon cher Raymond, c'est donc
un débat.
Un duel. Digue. Non, ce n'est pas le top 4 final pour Greg Schneider. Oui.
Ah, j'ai hâte de l'entendre.
Bah, oui, oui, c'est le top 4 final pour Dave Abadou. 30 secondes chacun pour convaincre. Je vous laisse la main, Dave. Vous, vous attaquez par, par le oui, c'est parti.
Belle victoire,
oui, bien sûr que on tient le top 4. Et en plus, c'est justice. D'ailleurs, ce sont les 4 meilleures équipes de ce championnat. Nice a décroché, peine à faire du jeu. C'est le bazar dans le club. On sent bien que là, c'est en train de tourner chocolat. Lens a abdiqué officiellement dans cette course à la Ligue des Champions par la voie de Francaise au gré des défaites de ces dernières semaines qui ont établi des limites. Et évidemment, le reste du peloton n'est pas invité. Les équipes qui sont devant ne lâchent rien. Brest ne lâche rien. Monaco est reparti comme en 40. Lille est une des équipes qui joue le mieux en ce moment. Et évidemment, je mets Paris de côté.
Greg. C'est fait. Alors, Machiavel a dit la statistique est l'art suprême du mensonge. Donc, elles sont faites à un moment donné pour être démenties. Il reste évidemment des matchs. Moi, j'enterre pas Lens comme ça. Alors, peut-être que Hez pense ce qu'il dit, mais même comme ça, les matchs vont quand même se dérouler. Il y a une équipe qui a des racines profondes, qui fait quelque chose. Je trouve que Lille, que je vois jouer à chaque fois ici d'ailleurs, laisse énormément de gomme. J'ai l'impression à chaque fois de voir des finales et je pense qu'il pourrait manquer d'énergie à un moment donné. Monaco est pas un exemple de stabilité non plus. Moi, j'ai encore une incertitude. Même si ça peut se dessiner comme ça, j'ai l'incertitude.
Non, vous n'êtes pas sur Bouillon de Couture hein, ce soir, Machiavel, Jean-Anouilh. Vous êtes bien dans l'équipe du soir, donc ne zappez pas, on reste ensemble jusqu'à minuit 30. L'équipe Connect, n'hésitez pas pour voter Greg ou Dave Apadou. Président, est-ce qu'on a le top 4
D'abord, je voulais savoir, il y avait déjà des statistiques
au temps de Machiavel.
Ah oui, déjà.
Oui, tout à fait.
Il y avait Opta.
Le nombre de tacles. Il était en conflit avec eux.
Il s'en est servi pour écrire Le Prince.
C'était ou Machiavel ou Opta.
Non, par exemple, sur la possession, Machiavel.
Mais c'était pas la victoire à 3 points à l'époque.
Je pense que, à la limite, c'est pas le problème de ceux qui sont devant, c'est le problème de ceux qui sont derrière. Et qui sont à la rue, qui sont en difficulté, qui n'arriveront pas. Je veux dire, quand on voit Nice, Lens, ils n'arriveront pas à rattraper 6 points. Ça fait 6 points, ça fait qu'il faut qu'il y en ait un qui perde 2 matchs et qu'eux gagnent tous les matchs. 4 matchs gagnés et 6 matchs pour les autres, qui gagnent tous leurs matchs et qu'ils en gagnent de plus. Je ne vois pas comment ils peuvent les rattraper et je ne vois pas comment déjà les autres peuvent s'écrouler, ils peuvent se faire accrocher. Peuvent avoir des rencontres entre eux, mais de perdre 6 points, au moins 6 points, parce qu'il y a le goal-average.
Ils vont se rencontrer entre eux. Hein.
Non, mais pour
Brest,
oui, c'est ça, ils vont se rencontrer, mais les autres, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs derrière.
Donc, tu dois faire un sans
pour les rattraper, c'est du sans faute. Donc ça me paraît pas.
Lens, c'est pas. Sur Lens, on va vite.
Lens, honnêtement, ça fait quelques temps que je les vois jouer. Je dis, ils ont perdu. Le jeu, la vitesse, oui. Ils ont perdu l'engagement, ils n'ont plus cette flamme, ouais. Ils déstabilisent plus l'adversaire.
Et je pense que physiquement...
La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est contre Lyon. Ouais. Parce que, et encore, ils peuvent prendre le but en première mi-temps, et Lyon peut mener 1-0, et ça change le match. Mais c'est le seul match où on a senti encore ça.
Et physiquement, il y a un petit coup de moins bien, et mentalement, il y a un petit coup de moins bien, et dans certaines équipes, quant à ça, tu peux être sauvé par le talent. Ouais. Par un joueur capable de faire la différence. Là, à Lens, on l'attend encore.
Il existe. C'est Brice Samba.
Ouais.
Bon, non mais
Nabil Djellit.
Bon, moi rapidement. Pour moi, c'est quasi pire. En fait, pour que ça bascule, il faudrait que un des trois derrière le Paris Saint-Germain ait un rythme de relégable sur les 6 dernières journées. J'y crois pas. Il y avait deux questions que je me posais moi depuis un moment. Je pense que maintenant j'ai la réponse. C'était est-ce que Brest va s'effondrer ?
Non.
Non mais je me pose. Et ma deuxième question, c'était qui avec PSG et Monaco ? Parce que Monaco, je pense que leur pouvoir offensif leur suffisait pour être dans les 4 premiers du championnat de France, même si parfois c'était journée porte ouverte derrière.
Sans Coupe d'Europe.
Voilà. Et je crois avoir la réponse avec ce que j'ai vu ces derniers temps, avec ce qu'a fait Lille notamment. Mais Lille, attention quand même, parce que c'est une équipe qui est sur deux tableaux. Qui va devoir.
Aston Villa en Ligue Europa.
Voilà, Aston Villa qui va certainement pomper de l'énergie, entre guillemets. Mais vu l'état
des
suivants, bon, Marseille, c'est un fantôme. Nice, ils ont joué la moitié de l'année, ils ont arrêté. Rennes, c'est l'ascenseur émotionnel. Reims. Et Lens. Reims. Comme l'a dit Dev. Reims, ils sont rincés un peu. Voilà. Comme l'a dit Dev. Lens, bah, est-ce, quand tu l'entends en conf, bah, il te dit.
C'est très agréable c'est d'avoir un avocat des causes perdues.
On va pas faire toutes les équipes de Ligue 1.
C'est le principe de Péter. C'est le principe de Péter.
On va parler du Paris Saint-Germain. Non, pas mal. On va parler du Paris Saint-Germain dans un instant. Le Paris Saint-Germain est-il prêt pour ce match? Est-il vraiment prêt pour ce match contre le Barça? Les chroniqueurs vont s'écharper là-dessus également. Et puis toutes les images également dans, à venir avec Jérémy Janingro dans quelques secondes. A tout de suite. Allez, quasiment minuit sur la chaîne L'Équipe, dans L'Équipe du soir. Dans un instant, on va parler du Paris Saint-Germain, le casting ce soir, Nabil Djellit, Guillaume Dufy, Greg Schneider, Dave Padoue, le président, Raymond Domenech, Jérémy Janingro également avec nous pour toutes les images de la Ligue 1, notamment le sport, le foot européen, mais également Paris-Roubaix également à venir dans un instant. Le débat du Paris Saint-Germain dans quelques secondes également, à J-2 maintenant, on est lundi, dans quelques secondes, J-2 avant le match contre le Barça. Le PSG est-il vraiment prêt pour ce match après le nul face à Clermont hier? Notamment, on va y revenir. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, ce sera un super duel. Et puis je vous rappelle l'invité exceptionnel de l'EDS demain soir, ce lundi soir, Pierre Lescure, à partir de 22h50 sur ce plateau ici. On parlera bien sûr donc de ce PSG-Barça avec notre confrère Pierre Lescure. Les images de la victoire lyonnaise à Nantes, à la Beaujoire. C'était le dernier match de la 28e journée de Ligue 1, Jérémy.
Exactement, c'était à la Beaujoire, à huis clos, sans supporters parce qu'ils avaient utilisé des fumigènes lors du dernier match à domicile. On va revoir les quatre buts de cette rencontre. Ça commence par Nantes avec Mathis Abine, un joli centre de Florent Mollet. On est à la 12e minute de jeu pour un deuxième but de la tête en deux matchs pour Abline après celui face à Nice. Ça, c'est pour l'égalisation de la Lacazette après de jolis sauvetages d'Alban Lafont. 14e but en Ligue 1 pour Lacazette. Et puis Maitland-Niles va servir Malik Fofana pour le 2-1 à la 77e. Premier but en Ligue 1 pour le Belge de 19 ans, la recrue hivernale. Et puis le 4e but pour Gift Orban, servi par Mama Baldé.
Victoire lyonnaise donc ce soir à Nantes. Le résultat du duel sur Nantes, ouais, effectivement. Le duel sur Nantes avec Greg et Dave Apadoue. Est-ce qu'on a le résultat du duel? Qui a remporté ce duel? Greg Schneider
Sur le top 4.
Pardon, effectivement, c'était sur le top 4.
Bah, je l'ai perdu. Je peux donner le résultat.
On ne l'a pas en régie. Oui, non. Si, on l'a, c'est parti. Dave Apadoue, victoire 52%. Mais c'était serré.
Belle prestation.
Vous êtes bien défendu, Greg Schneider. Bravo.
Machiavel.
Comme dirait Machiavel, ce sont les plus belles.
Le Paris Saint-Germain a fait match.
La possession n'est pas.
Oui, c'est ça.
Hier face à Clermont avec une équipe remaniée hein, par Luis Enrique, les titulaires étaient gardés.
À peine
en maillot. Ça s'est peu vu. Match nul hier face au Clermontois. Le PSG est-il vraiment prêt pour ce match face au Barça en quart de finale aller de la Ligue des Champions? À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous connaissez déjà mes émissions, mon cher Raymond.
C'est un grand débat.
Et un grand débat. Ouais, super duel, jingle.
Tranquille.
Oui, le PSG est prêt pour ce match pour Greg Schneider et Guillaume Dufy. Non, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt pour Nabil Djellit et Dave Apadoue. Vous avez une minute par équipe, on attaque par les noms. Nabil Djellit, vous ouvrez le bal, c'est parti.
C'est vrai qu'ils sont tellement prêts qu'on se pose pas la question en fait. Déjà pour commencer, c'est pas une évidence et je suis d'accord là-dessus. Bon, bah, moi, celui pour moi qui est prêt, c'est Kylian Mbappé. Quoi. Pour ce genre de match, en général, il est prêt pour faire des grands matchs. Bon, c'est vrai que collectivement, c'est un peu mieux le Paris Saint-Germain, mais ça repose toujours sur des individualités. Quand on me dit que Donnarumma est le meilleur joueur actuellement de l'équipe, moi, quand le gardien est le meilleur joueur d'une équipe, ça me rassure pas. Il y a des zones d'incertitude, Dave en parlera mieux que moi. La défense, leur milieu de terrain qui est parfois dépassé, et puis des joueurs qui ne seront pas à leur poste et qui ne sont pas au top de leur forme, comme Zaïre Emery.
Guillaume Dufy.
Bah, si t'es pas prêt pour le seul véritable premier match de la saison qui compte, ce serait quand même dommage. Il n'y a pas de blessés, il y a juste un suspendu Hakimi. Ils sont leaders du championnat, ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Mbappé sera en grande forme et jouera 90 minutes. Dembélé va de mieux en mieux, sera là aussi. Moi, très franchement, je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi pessimiste. Voilà, c'est une équipe qui arrive avec toutes ses forces, on les connaît. Et je pense que cette équipe est prête.
Dave Apadoue.
Oui, si t'as vu un match référence contre une grosse équipe cette saison, il faudra me l'indiquer, parce que la Real Sociedad, c'était quand même pas ça. Moi, tu me dis qu'il n'y a pas de zone d'incertitude. Moi, je te dis qu'en défense, il y a des zones d'incertitude. Marquinhos relève seulement de blessures. Lucas Hernandez est à l'envers depuis plusieurs semaines. Il manquera Hakimi, ce qui est pas rien quand même. Warren Zaïre-Emery a été touché contre Rennes. Il pourrait remplacer remplacer Hakimi, ce qui n'est pas son meilleur poste.
Attention, attention.
Beaucoup de zones d'incertitude.
Greg.
Je pense qu'il ne répond pas tout à fait à la question qui est posée. Si c'est ce que le PSG va rouler sur le Barça, le PSG est une bonne équipe, le PSG, peut-être pas. Mais compte tenu de l'effectif et des forces qu'ils ont, ils sont organisés pour affronter ce. Je pense qu'ils ont à peu près optimisé ce qui se passait. Il y a peut-être un petit truc, par exemple, qui me. On dit Hakimi est suspendu, mais c'est peut-être pour ça qu'il a recentré Dembélé, sinon il n'aurait pas cassé le. Il n'aurait pas cassé le truc à droite. Ce que je veux dire, c'est qu'il a prévu ce qui allait se passer, et compte tenu des forces, il est prêt pour les optimiser. Après le match, on verra bien.
L'équipe Connect, vous votez, vous prenez votre téléphone, le QR code, vous votez pour votre paire préférée ce soir, et vous nous donnez votre avis. Président, vous allez arbitrer ce débat, s'il vous plaît, Greg. Votre réponse, président, le PSG est-il vraiment prêt pour ce match face au Barça, Dave, s'il vous plaît. Président.
Je crois que la vision de Greg est juste, c'est vrai. On ne dit pas ils vont battre le Barça, mais dit est-ce qu'ils ont tout fait pour être prêts pour ce match-là. Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus.
Tu te trouves prêt en défense.
Il a fait tourner, il fait ce qu'il peut. Il fait tourner son effectif.
Non, mais qu'il ait des joueurs modestes, peut-être, mais.
Il a Hakimi qui est suspendu. La charnière, il a essayé toutes les formules pour ramener tout le monde au plus haut niveau avec Skriniar qui l'a refait jouer, avec Danilo qui l'a fait jouer. Il a mis Hernandez. Je dis, il a fait ce qu'il fallait pour être prêt. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner.
Non, mais à ce moment-là, tout le monde sait qu'ils vont être prêts.
Toutes les équipes.
Mais est-ce qu'ils sont prêts? Moi, je réponds à ça. Est-ce qu'ils sont prêts? Je vois des incertitudes en défense énormes. Je vois même des incertitudes au milieu.
Toi, tu vois des incertitudes, mais tout le monde en voit.
Lui aussi. Merci de dire.
Mais est-ce qu'ils peuvent ne pas avoir ces incertitudes? Ils les ont depuis le début. Ils tournent. Ils gèrent. Il a géré le cas Mbappé. Il l'a amené.
Mais Dave va avoir des incertitudes.
Ils sont tous prêts. Tous prêts. Au sauf moment Paris. Où tu arrives, tu es prêt.
Non, par exemple,
tu peux pas enlever ça.
Le Paris Saint-Germain, l'année dernière, quand ils prennent le Bayern, c'est un bazar sans nom. T'as Kimpembe avec le mégaphone devant le COP. Là, on peut dire que là, ils sont pas prêts. Mais là, effectivement, cette équipe, c'est à peu près pacifié. L'histoire de Mbappé est à peu près passée. Il y a une paix armée entre les deux, mais ça va. Il n'y a pas le bazar.
Alors, attendez. On va s'entendre. Si votre critère. C'est de dire, il n'y a pas le feu au PSG.
Je ne me désolidarise pas, mais tu peux dire si ton critère.
Oui,
mais je ne me désolidarise pas. Après, je trouve que
beaucoup de gens se
tu parlais de match référence. Le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, depuis 10 ans, des matchs références, il n'y en a pas beaucoup. Il y a tellement de différences de niveau avec l'adversaire qu'il n'y en a pas. Ouais. Et je trouve que ce qu'on voit depuis quelques semaines sur le PSG...
Contre qui?
C'est quand même un peu plus cohérent.
Dernière défaite, c'était contre Milan.
Ils n'ont pas perdu depuis 4 mois, ces mecs. Ça fait
voilà, c'est pas génial, mais c'est cohérent. À 10 contre 11, à Marseille, c'est cohérent. Contre Rennes, c'est cohérent.
Greg, Guillaume, parce que je sais que tu t'es désolidarisé.
Non, mais pas du tout. Non, mais juste sur l'histoire du bazar.
Ça m'est arrivé aussi très récemment.
Mais
ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, bon, après, il y a la com. C'est vrai que comme l'environnement a l'air un peu plus cool que les autres saisons, donc... C'est fantastique. C'est bon, bref.
Bah, ça compte un billet.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est. Mais là, il est peut-être pas responsable de tout. Après, c'est pas lui qui a construit l'équipe. Il a débarqué. Peut-être l'année prochaine, ça sera mieux. Mais les points forts du Barça correspondent aux points faibles, voire aux incertitudes du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le triumvirat offensif là du Barça, il est dangereux.
Il y a mal rassuré.
Leur milieu de terrain, il est plus technique que celui du Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas en train d'essayer de mettre un climat de négativité ou la peur. Mais c'est vrai qu'au moment du tirage, j'ai quand même été surpris. Et je tenais à le dire ici, qu'on parlait même pas du match du Barça. On m'expliquait que c'était la voie royale pour la finale. Donc
non personne, non pas ici, pas lui, pas moi.
C'était quand même mieux de tomber contre le Barça que contre le Real ou le City. Franchement,
moi je pense qu'on sous-estime.
Mais je sous-estime
on
pas.
On joue pas Real Sociedad à tous les tours. Décimer, c'est gagner.
Est-ce que j'ai dit ça? Je pense que le FC Barcelone est un meilleur adversaire que City ou le Real aujourd'hui.
Et au moment du tirage.
Et c'était mieux
plus,
encore.
Ils étaient en gros.
Mais ils vont mieux, ils vont beaucoup mieux.
Là, ils vont mieux.
Juste, Jérémy, un absent, on a dit Hakimi, il y a des zones d'incertitude également concernant quelques joueurs.
Quand même, sur l'infirmerie, si on fait un point, évidemment. Presnel Kimpembe est blessé de longue date, mais dans les incertains, on a Nordi Mukiele et Bradley Barcola. Mukiele, il y aura un point qui sera fait demain après sa commotion cérébrale. On en saura plus sur son état de santé. Et puis, on va rappeler aussi que Lucas Hernandez et Nuno Mendes n'étaient pas dans le groupe contre Clermont hier, mais ils étaient simplement préservés.
Et Barcola, s'il a fait une véritable commotion, il ne peut pas jouer.
Tout collectif un peu plus puissant qu'il n'est, par rapport aux autres saisons, je peux l'entendre. Encore que la première saison de Tourelle, c'était collectivement fantastique. Tout le monde va comme ça, regarder, faire comme ça et regarder Mbappé et voir s'il va gagner le match ou pas.
Mais évidemment, on a vu.
C'est le cas de toutes les équipes avec des grands joueurs.
Mais pour moi,
quand t'avais Messi dans ton équipe,
si t'as pas Lewandowski à Barça,
vous me parlez d'un PSG anti-bling bling, un collectif capable de gagner.
Mais toutes les équipes, même
ça dépend ce que vous me vendez.
Déjà, c'est pas nous qui te le vendons, Nabil. C'est le Paris Saint-Germain qui communique sur le fait que c'est pas bling bling, c'est collectif et tout. Tous ici, on a pris nos distances avec cette communication-là. C'est le récit que les Qataris veulent dire. Ça ne dit pas quelle est cette équipe.
C'est leur storytelling.
Ce que cette équipe a vraiment dans le ventre, le verdict, il est à venir. C'est là et c'est tout de suite.
C'est le début. Ouais,
dans 10 jours, on le sait. Donc je veux dire, voilà, mais il suffit d'attendre.
L'argument de Dev, que j'aurais pu utiliser aussi. Quand ils ont joué des vrais matchs, je suis désolé, je ne veux pas manquer de respect, parce qu'on est en train de me faire le Wikipédia de la saison, ouais, ils marchent sur la Ligue 1, c'est bon.
Tu vas pas nous parler.
Quand ils ont joué Newcastle à l'extérieur, quand ils ont joué le Milan AC à l'extérieur, quand ils ont joué Dortmund à l'extérieur, ils se sont fait marcher dessus. J'ai le droit d'avoir quand même des interrogations. Au niveau de l'intensité, d'un milieu de terrain qui va être dépeuplé d'un des joueurs qui a été le plus important sur la première partie de saison, qui est Zaïre Emery, quid du milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Moi, je me pose
une question. En octobre, Xavi était à deux doigts de prendre un coup de chausson. Oui. Maintenant, les dirigeants veulent le faire signer.
Sauf que depuis cette période d'octobre, tu n'as aucun match de Ligue 1 ou même contre la Real Sociedad.
Mais Real Sociedad, on nous rappelle qu'en première période, le PSG s'est fait balader.
Alors voilà, au match aller contre la Real Sociedad, à qui il manquait les trois quarts des joueurs, faut quand même le rappeler. Mais admettons quand même qu'ils aient fait le job. Mais en tout cas, depuis cette phase de poule, il n'y a quasiment rien qui te permet d'évaluer ce PSG.
Ça fait 10 ans que t'as pas mal
fait. Il y a deux choses. Déjà, contre Dortmund, revoyez le match, c'est un bon match contre Dortmund. Quand ils vont chercher à qualifier à Dortmund, c'est un bon match. Je parle
ils
pas
sont bousculés,
Philippe. Mais c'est à haute intensité, c'est un bon match. Donc je trouve que c'est un petit peu dur de dire ça. Et ensuite, ces mecs, après on en pense tout ce qu'on veut, mais ces mecs n'ont pas perdu un match depuis 4 mois et demi. Moi, je suis pas. Voilà, donc je suis pas. Mais arrive un moment, ça peut que dire.
Ça veut dire qu'il y a une espèce d'exigence en ce moment qui fait qu'il y a un relâchement qui est moins grand. Ok, très bien.
Ouais, voilà.
Mais
c'est un gros effort et un gros progrès du côté du PSG.
Mais j'entends bien. Ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, on peut faire l'éloge qu'on veut. Ils ont moins de points que l'année dernière à la même époque, avec le même nombre de matchs. Sous Galtier, qui visiblement était une catastrophe.
À nuancer parce que Luis Enrique fait beaucoup tourner ces dernières semaines.
En fait, avec vous, c'est formidable. Il est toujours gagnant. Ouais, C'est-à-dire que quand il se prend une tôle à Newcastle, il avait fait un test.
Représentateur de l'émission.
Il avait fait le test. Non, mais c'est un vous générique.
C'est pas un vous générique, à mon avis.
C'est vous générique ou.
C'est un vous générique. Je vous regarde.
Parce que j'étais là avec la biscotte.
Dans les yeux, je voulais.
Non. Mais dans le doute, Karim, tu peux le mettre.
Mais ça se réclame pas, Karim.
Je vous le mets également.
Dimanche, oui.
Je mets gamin à Guillaume Dufy parce que normalement la délation ne marche pas.
Normalement, ça marche pas bien. Non, ce que je veux dire, je sais plus ce que je voulais dire.
J'étais très sérieux sur la nuance à apporter malgré tout. Oui. Ces dernières semaines, il fait sortir Mbappé à la 60e, il le fait pas jouer en début de match. Oui, mais ce sont des choix parce qu'il prépare la saison prochaine et qu'il avait de l'avance en championnat.
Ouais, non, vous n'allez pas avaler cette
sur le nombre de points par rapport à la saison dernière.
Mais attends, tout ce qu'il a fait là, c'est pour être prêt pour le match du Barça.
Oui, bien sûr.
Donc tout ce qu'il a construit, tous les
chemins,
il
arrive en fraîcheur. Il y a de la fraîcheur.
On saura si c'est vrai.
Dans 10 jours.
Tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a mis en place, de faire tourner, de ramener des joueurs, de trouver des combinaisons différentes, c'est pour arriver à ça.
Oui, mais moi j'ai des points d'interrogation. Quand je vois Lucas Hernandez qui avait fait plutôt un bon début de saison, que je le vois depuis plusieurs semaines, vous croyez que c'est un hasard s'il va faire un tour sur le banc et tout? Il y a des doutes sur son investissement, on va dire, au quotidien, pour dire les choses poliment.
C'est la défense qui vous inquiète. Voilà, Nuno Mendes qui revient, mais qui est toujours un peu fragile.
Hakimi
suspendu, c'est Zaïre Emery qui va quitter.
Exactement, la charnière qui reste un grand point d'interrogation.
J'ai vu le petit qui a joué le match contre Clermont, l'arrière gauche.
Zagré.
Qui va être un très très bon joueur.
Oui, mais pas contre le Barça dans 3 jours.
Alors après,
c'était clairement. Le Barça, ils ont des gamins. Le Barça, ils ont rentré des joueurs qu'on disait.
Non, mais Raymond,
il trouve ça.
L'absence de. Si Zaïre Emery joue latéral droit. Ce qui est très fort, c'est parti. Défensivement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant que si c'est Hakimi qui joue latéral droit.
Hakimi avec le ballon. Non, tu peux pas dire ça. Donc c'est un spécialiste du poste, c'est un de ses meilleurs.
Est-ce que Hakimi défensivement, tu trouves que c'est un cliché?
Les contre-attaquants comme ça, ils défendent toujours mal.
Mais Hakimi, quand il se fait dépasser,
il a une VMA, une vitesse qui fait, qui rattrape les coups.
Mais Nabil.
Donc ça, c'est le truc genre Hakimi, c'est pas défendre.
Tu sais très bien que Nabil, que Hakimi défend mal.
Tu sais très bien qu'il défend. Il sort, il signe pas à l'Inter avec Conte. Il signe pas à Dortmund, il signe pas au PSG.
Nabil, tu regardes les matchs comme moi. Là, t'es pas juste.
Warren, vous le trouvez comment?
Warren, c'est un latéral droit. C'est quoi,
le match qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire en termes de niveau, pour Warren, hein, je ne parle pas du PSG.
France-Allemagne pour vous ?
Exactement.
C'est l'un des seuls à avoir été... Dans la partie, non mais pas dans le désert français ce jour-là. C'est l'un des seuls à avoir été un peu sur le porteur.
Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce match qui n'était pas un match?
Oui, mais
moi, est-ce qu'on peut arrêter de visualiser ce match comme une référence?
Vous n'allez pas dire que Warren il l'a pris à la légère.
C'est le seul à être sorti sur le porteur.
Oui, mais sauf qu'il s'est fait, il s'est fait déboîter. Et ce sera à peu près la même qualité au milieu.
Mais pour aller dans le sens de Nabil ou de,
c'est raffiné en face.
Il va sortir du milieu de terrain. Et quand vous voyez le milieu de terrain du Barça avec des joueurs comme Gundogan, De Jong notamment. Vous parlez
d'un Barça monstrueux qui va gagner avec des champions là.
Ça va mieux, mais quand même. Eux, ils savent gagner les Ligues des Champions. Attention.
Ah oui, mais ça fait combien de temps
qu'ils n'ont pas gagné les Champions?
Ouais, mais bon, il y en a, ils n'ont pas gagné.
Si je puis me permettre, je ne comprends pas pourquoi.
On parle d'un Barça qui va gagner les Champions.
C'est ce que disait Raymond Domenech. Attention. Il suffit de se mettre tranquillement devant les deux matchs et ça va être dans 10 jours. Ça va être d'une clarté biblique.
On revient dans 10 jours alors, Greg.
Mais oui, mais la mire.
C'est-à-dire qu'on va éprouver le storytelling qatari, on va éprouver la valeur du milieu de terrain parisien. Moi, j'ai les mêmes doutes que vous. On va voir ce que va donner l'arrière gauche contre. Non, mais on va.
Le milieu, il est prêt.
Mais il suffit, par rapport au mec qu'il a, il est ami au
donc,
du mieux qu'il
peut. Ça veut dire que votre théorie, elle marche pour tous les adversaires possibles. Si c'était City, vous m'auriez dit, ils sont prêts.
Mais oui,
ils sont prêts.
Oui, ils sont prêts à prendre le ballon, c'est sûr.
Ah bah ils sont prêts à aller à l'abattoir. Oui, mais ça c'est vrai. Mais tout à fait.
Tout le monde est prêt.
En fait, tout le monde n'est pas prêt.
Si tu me dis, est-ce que le Paris Saint-Germain est favori
demain? Parce qu'il n'y aura plus qu'un jour.
Non, mais moi franchement, je suis encore plus prêt. J'ai des doutes et je demande à voir. Et c'est pas, dire c'est pas malhonnête.
Non mais tout le monde demande à voir.
On a tous des doutes. On n'est pas sûr.
Qu'on m'explique. Qu'on m'explique que Zaïre Emery c'est Cafu à droite. Maintenant, bon, il faut peut-être raison garder.
Il n'y a personne qui a dit ça à aucun moment.
On me dit que c'est mieux qu'Hakimi, qui est un des cinq meilleurs au monde. Quoi.
Pas défensivement, Nabil. Arrête avec ça. Il ne sait pas défendre.
C'est Moukele qui va jouer.
Examen neurologique devant.
C'est Solaire qui jouera à droite.
Quand je l'ai vu s'allumer avec le médecin, je veux dire, c'est le médecin qui a failli avoir une commotion.
Le médecin, il a raison de protéger les joueurs.
Je pense quand même que dans l'esprit de Luis Enrique, Moukele, il est quelque part entre le chauffeur du bus et la cantinière. Dans son échelle de priorité, je pense que voilà, il peut.
D'ailleurs, on l'a vu comme il le regardait quand il avait la tête comme ça.
Oui, bon, ça va. Voilà. Non mais c'est clair que il peut prendre sa soirée de mercredi, Mukiele sur grand.
Qui a remporté ce duel? Le PSG est-il vraiment prêt?
Oh là là.
Ouh, la perche Schneider Dufy. Oui, le PSG est prêt, accompagné de Raymond Domenech.
Et c'est historique, Karine. Allez, mange. 75 ans. C'est historique.
Mange, Dev.
C'est historique parce que Greg n'a jamais atteint un tel score. C'est historique ce qui se passe.
Tout en étant lâché par son coéquipier. Voilà.
Quand il a dit que c'était le bazar ou c'était pas le bazar. Voilà. Juste ça, sur vraiment une expression.
Oh, les brigades du Tigre, la petite moustache. Voilà.
Ça se désolidarise encore.
Bravo, victoire donc de cette.
On appelle ça une fête
d'air Dufy.
Rendez-vous dans 10 jours.
Des images à venir. On était encore ensemble pendant un gros quart d'heure et on attaque par le vélo. Il y avait classique, la plus belle, l'une des plus belles, Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Encore un chef-d'œuvre pour Mathieu Van Der Poel.
Exactement, monumental, le champion du monde néerlandais, vainqueur pour la deuxième fois de sa carrière à Roubaix édition, marqué, vous allez le voir, par cette chicane, ce virage qui doit ralentir le peloton avant le pire secteur pavé, la trouée d'Arenberg. L'attaque de Van Der Poel, elle est là à 59 km de l'arrivée. Attaque décisive parce que personne ne le rattrape sur l'enfer des pavés. Public nombreux, vous le voyez sur le mythique Carrefour de l'Arbre et à Gruson. Seul au monde, Van Der Poel, quand il entre dans le vélodrome de Roubaix, sixième monument après ses trois Tours des Flandres et Milan-San Remo cette saison. deuxième son coéquipier Philipsen, troisième Mats Pedersen. Un chiffre pour résumer l'incroyable exploit de Van der Poel, c'est le deuxième coureur de l'histoire à faire le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix avec le maillot arc-en-ciel sur le dos. Le premier, c'était le Belge Rick Van Looy en 1962.
Et il est logiquement à la une de l'équipe ce lundi matin. Regardez, à la une de votre quotidien préféré, Van der Poel. Le très haut pavé, magnifique titre qui plaira à Pierre-Antoine Damcourt notamment. Guillaume Dufy, une victoire logique, mais énorme.
Aussi, vous avez adoré quand même. Vous étiez occupé, vous aviez un oui, passionnant
multiplex. Il est arrivé à 16h53, je n'ai pas pu le voir, mais j'ai revu en replay.
C'est extraordinaire ce que nous proposent les coureurs depuis le début de l'année 2024. Pogacar, Van der Poel, totalement exceptionnel. Ils repoussent... ils attaquent plus à 10 bornes, ils attaquent tout seuls à 50 bornes, 60 bornes.
C'est bon signe, ça.
Mais ouais, parce que les contrats, alors évidemment.
Tu me le vends pas bien.
Non, mais parce que c'est des mecs qui
avaient envie de m'y mettre.
Qui attaquent à tout va. Alors effectivement, tu ne peux pas empêcher les suspicions.
Non,
mais
c'est vrai.
Tu as raison, parce que effectivement, on entend. Effectivement, ça peut surprendre, mais c'est tellement beau, ils sont tellement sexy, ils sont tellement offensifs, ils veulent gagner tout, attaquer partout. C'est exceptionnel à suivre et à lire aussi dans l'équipe, et je vous conseille les papiers d'Alex Ross,
exceptionnels
et qui font vivre de manière quasiment unique ces grands moments.
C'est back-to-back, c'est assez rare pour être signalé cette
c'est
victoire.
Il y a une semaine, Tour des Flandres.
Le concernant, ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'était pas un cycliste sur route, en fait. En début de carrière, il a froidement privilégié le cyclocross, où il a pourtant moins d'argent, mais parce que ça correspondait à sa culture, à l'idée qu'il se faisait de lui-même. Et c'est le cyclocross qui l'a amené à ce niveau de performance. Donc c'est presque deux sportifs en un quand même.
Et lui ne tombe pas, hein, contrairement à d'autres.
Voilà, non, mais et aujourd'hui c'était un peu un effort solitaire de cyclocross. Il est aussi avantagé pour ça, sur les grandes. Parce qu'il sait se gérer, il sait même gérer les coups de moins bien. Mais en fait, on a un prototype en fait. On a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de. Enfin, qu'on n'a pas eu sous le nez jusqu'ici. Tom Boonen, qui était dernier, a fait le doublé
C'était
un type. Mais c'était un type qui était sur la route avec cette culture de classique, avec ses. Lui, tu sais pas trop.
Et on peut être un coureur de légende sans avoir gagné le Tour de France. Il ne le gagnera pas.
Bien entendu.
A priori, non, mais je pense pas.
Mais gagner avec le maillot arc-en-ciel, c'est encore plus de
la gueule. Ça a de la gueule.
Non, surtout que c'était. Alors, en plus, le maillot arc-en-ciel, il y a des titres de champion du monde, des titres de champion du monde, on ne va pas se mentir. Mais le titre qu'il va chercher à Glasgow, il est invraisemblable.
C'est un héros du bitume, un forçat de la route, moi, c'est.
Il a tenté.
Vous n'étiez pas obligé, carton jaune. Mais vous avez pris beaucoup de cartons aujourd'hui,
c'est incroyable.
Non, mais parce que personne n'y a cru. On revient au foot, vous allez pouvoir vous
exprimer. Il avait un air coupable en le disant.
Ouais, mais oui, il s'excusait presque de parler. Montpellier, qui quasiment se maintient après son match très intéressant et important, surtout aujourd'hui contre Lorient.
Exactement, contrairement à Nantes, ils font une bonne opération dans la lutte pour le maintien. Vous allez le voir, ça commence bien avec ce pénalty obtenu grâce à Nordin. Oui, un peu litigieux cette faute sur Nordin, il y a eu la VAR et le pénalty transformé donc par Savanier donc à la 55e minute de jeu, et puis ensuite le 2-0 grâce à Caramo. Au classement, Lorient reste barragiste à 6 points de Montpellier.
Il y a un pénalty qui a été annulé par
aujourd'hui c'est vraiment le cher payé parce que Lorient, Michel Desacquerons l'a reconnu après, mais pour autant à chaque fois que je vois le classement de Montpellier, je ne peux pas m'empêcher de leur mettre 3 points de plus à titre personnel parce qu'il y a un mec à balancer. C'est pas que c'était mal jugé.
Ça a
plombé leur saison. Parce qu'en plus, il y a sans doute eu des conséquences au-delà des 3 points, comme dit Guillaume. Donc, moi, très franchement, ça m'aurait fait mal que Montpellier descende. Je vous le dis à titre. Alors que je suis neutre, mais compte tenu de la manière dont ça s'est passé.
T'es neutre, c'est pas ce que tu me dis avant qu'on rentre dans l'émission.
Non, mais c'était une victoire importante contre un concurrent direct. Ils se mettent 6 points par rapport à la zone de barragiste. Et Lorient, inquiétude sur
Lorient. Ça a la gueule de l'emploi. Bien, ça. Non, mais ça joue très bien. Mais ça, tu disais tout à l'heure, tu citais l'exemple de quelques équipes qui jouant bien, tombées à l'étage inférieur.
Par exemple, il y a une semaine, ils ont bougé Brest dans des proportions que j'avais pas vues contre Brest.
Bien sûr, mais ils ont perdu.
Et ils ont perdu 1-0. Pas vernis, un poteau, les trucs sur stage sur la ligue.
Arbitrage.
Mais capable d'aller gagner à Rennes, capable d'aller faire nul à Monaco, c'est une équipe difficile à lire.
Franchement, il y a juste. Non, mais honnêtement.
Il faut gagner. Un nul, c'est bien, mais il faut gagner.
Clermont, pour moi, c'est terminé. Le FC Metz. On a quand même l'impression de plus en plus qu'il y a.
On voit le classement d'ailleurs.
C'est la place de barragiste, quoi, qui est en train de se disputer.
Ouais.
Alors, même si mathématiquement, Metz donne l'impression de ne pas être si loin que ça. Mais je les regarde chaque week-end, Metz, c'est...
Mais ils prennent des wagons de but.
Il y a un petit écart qui a été créé, vous le voyez, entre le 13e et le 14e. Ça va souvent entre Le Havre, Nantes, Lorient, Metz et Clermont, ouais, a priori, hein, parmi ces équipes-là. Pas sûr pour Clermont, effectivement, qui a l'air un peu décroché également.
Metz, c'est la pire équipe à domicile.
Ah ouais.
À domicile, c'est une catastrophe, le FCMS.
Ah, mais t'as vraiment gagné là-bas.
Non, puis attention, regardez les tendances, parce que c'est très important. Il y a des équipes, par exemple, qui sont pas tout à fait décrochées parce qu'elles ont fait rentrer des points en août ou en. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est
ce genre Nice, par exemple.
C'est ce qui se passe depuis 3 mois. Bah oui, évidemment.
Nice a fait ça, par exemple. C'était sa stratégie pour se maintenir. Tout mettre sur le mois d'août et le mois de septembre. Et ensuite, c'est le coup de la panne.
En novembre aussi.
Nice, c'est une grande histoire depuis longtemps. Je veux dire, tout le temps, quand ils étaient devant, champion d'automne, ils l'ont été quelques fois.
Ouais, mais c'est vrai.
Avec ça, il le fait également avec Arne Traor.
Nous, on jouait.
C'est la théorie des climats.
On disait Nice, d'entrée, ils étaient toujours devant. Mais on savait qu'en janvier, c'était fini.
Bah, quand le soleil réapparaît.
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais avec Favre, ils avaient été champions d'automne, il me semble.
Exactement.
Ils jouaient comme des dieux.
Ouais,
ils s'étaient écoulés. On va aller en Angleterre et il y a une lutte pour le titre.
Fantastique.
Exceptionnelle entre Liverpool, Arsenal et City. Liverpool a fait une mauvaise opération aujourd'hui dans cette course au titre.
Exactement, avec un match nul contre le grand rival Manchester United. Pourtant, c'est Liverpool qui commence bien ce match avec un ciseau de Luis Diaz au deuxième poteau. Sur corner, match relancé par l'erreur de Jarel Kansa, passe interceptée par Bruno Fernandes pour un très beau but. Kansa qui avait été préféré à Ibrahima Konaté. Un partout à ce moment du match. Un bijou dans ce match. Regardez, Kobbie Mainoo, la pépite de 18 ans, 2-1 pour Manchester. Et pénalty pour Liverpool ensuite à la 84e minute de jeu. 2-2 grâce à Salah.
Léger.
Il y avait faute, effectivement. 2-2 donc. Et au classement, Arsenal est premier, 71 points. Liverpool deuxième avec autant de points. Et Manchester City a un point en moins. Dave, vous qui aimez bien Liverpool, ça va être une fin de saison passionnante.
Oui, passionnante. Mais à mon avis, je trouve qu'Arsenal a plus de marge dans ces matchs. Liverpool, c'est toujours un peu à l'arrache ces derniers temps. Alors peut-être aussi dû à des blessés. Puis un peu moins de facilité dans le jeu. Par exemple, ce soir... Contre Manchester, enfin en fin d'après-midi, ils mettent 15 occasions pour en mettre une seule. Et sur le premier tiers de Manchester, ils font cette fameuse bourde. Je trouve qu'Arsenal dégage plus de sécurité dans l'ordinaire du championnat et ils perdent plus contre les gros. Moi, je devais mettre une pièce, je les mettrais sur eux. Manchester City me paraissent un poil moins fort, ça reste très fort, mais que l'an passé.
Est-ce que la gestion pour Arsenal de la
Ligue des Champions?
Les trois s'engagent en Coupe d'Europe.
Je sais, mais Arsenal, qui est peut-être une équipe beaucoup plus jeune et inexpérimentée, comment peut se gérer pour Arsenal ce calendrier?
Oui, ça va être le gros point d'interrogation, mais je trouve que c'est le seul, parce que sur le reste, je trouve qu'ils dégagent une force. Vous avez vu ce qu'ils ont mis encore à Brighton, c'est pas simple.
À l'extérieur.
Voilà, à l'extérieur, ils se sont baladés.
Ils ont peut-être rendez-vous en demi-finale de Ligue des Champions, quand même, en plus. Est-ce que ça peut pas troubler la donne? City et Arsenal, en principe.
Bon, alors, il va falloir que l'un passe le Bayern, l'autre le Real.
Le Bayern, c'est pas tout à fait. Le Bayern, j'ai pas trop de doutes.
Le Real,
toujours douter que le Bayern, par principe.
Est-ce que le Bayern est
avec le Real?
Non, mais oui.
On reste en Angleterre, Jérémy, et Tottenham, qui joue pour la 4e place, un qualificatif aussi en Ligue des Champions.
Exactement, pas de difficulté pour les Spurs contre Nottingham. On va revoir les buts à partir du 1 partout. Tottenham qui a pris l'avantage grâce à deux de ses défenseurs, Mickey Van de Ven, ce joli but à l'entrée de la surface de réparation. Le néerlandais et puis le 3-1 pour l'espagnol Pedro Porro à la 58e minute de jeu. 3-1 donc pour Tottenham qui reste 4e. Et puis pour Chelsea, c'est toujours aussi compliqué, mais on a eu un but magnifique. Regardez, Noni Madueke à la Robben, l'ancien de Chelsea. Regardez,
à la Robben,
avec en fait, le petit crochet, la frappe qui a trompé, effectivement. Bah oui, à la même table. Et puis regardez le 2 partout grâce à McBurnie. Chelsea est 9e à 4 points des places européennes.
Tottenham qui va être l'arbitre du championnat parce qu'il doit jouer Liverpool et Arsenal. Et on sait qu'entre Tottenham et Arsenal, c'est vraiment les ennemis absolus.
Juré.
Ils peuvent jouer les arbitres, en fait, hein, cette fin de championnat.
L'Italie, la Juve, est à la lutte pour le podium. Et la Juve qui a affronté la Fiorentina.
Exactement. Bousculée dans ce match, la Juve qui avait pris l'avantage à la 21e minute de jeu sur un corner repris par Bremer, poteau. Et puis ensuite, Federico Gatti qui a bien suivi. Et puis regardez après, c'est l'arrêt du week-end. Il est pour Chesney, le gardien de la Juve. Regardez ici.
Oh, là, c'est
qui frappe?
Elle est déviée, elle est
déviée. On s'en fout du mec qui frappe. C'est l'arrêt qui est intéressant.
Il descend plus, ça partait en lucarne.
Qui dégage le ballon après Chesney?
Mais sur un pas, à l'extérieur de la surface, allez la mettre là-bas.
Digne de Robben.
Vous n'avez jamais joué au foot avec Nabil, il a toujours un coup d'avance. Il voit plus loin.
Une fois, il m'a fauché, il y a eu pénalité.
Trois buts dans le match Monza-Napoli, Jérémy.
Et trois buts magnifiques que vous allez voir. Accrochez-vous là, vous allez vous régaler aussi après l'arrêt de Chesney. Le premier, c'est pour Victor Osimhen. Une détente digne de Cristiano Ronaldo. Ça rappelle aussi le but de Van Persie en Coupe du Monde avec la belle extension.
Vous allez faire que des comparaisons.
Voilà. Et deux minutes après, regardez. Là, Matteo Politano sans contrôle.
C'est du Thomas.
Celle-là, elle est magnifique aussi.
Ça,
et le dernier, Piotr Zielinski, au même endroit, mais avec un contrôle transversal rentrant.
Ah oui, c'est beau.
Voilà, c'est...
Ça, c'est un plaisir.
Voilà, James Rodriguez.
Le gardien n'est pas très bon. Hein.
Magnifique.
C'est, tous c'est des beaux buts là, dans tous les championnats. Là.
Et nous, on en a des beaux comme ça? Ah non.
Bah, nous, on a eu la Lacazette qui a été chercher un but fantastique avec un cui foot au-dessus de la moyenne. C'est ça aussi.
C'est vrai, vous avez raison. Je ne peux pas vous contredire là-dessus, Nabil. On continue. Sur la chaîne équipe, l'équipe de France de Hand a joué son dernier match de qualification. Alors.
Contre la Lettonie, aucun suspense ce match. Et oui, mais 4 buts en kung-fu, vous allez voir, en fin de match. Le premier, c'est sur une passe de la gardienne Atadou Sakho. Le tir en extension pour Chloé Valentini, la franc-comtoise qui joue à Metz. Ensuite, Valentini, encore une fois. Ça, c'est à la fin du match pour arriver à 51.
Je lis bien le score.
À 9. Ouais. Oui, effectivement. 50 buts pour les handballeuses. Encore Chloé Valentini pour le troisième kung-fu qu'on vous montre ici. Et puis, le tout dernier but du match, toujours pour faire le show, Tamara Horacek, 53 à 9, parcours
c'était
parfait.
C'était pas contre le cours du jeu.
En qualification.
Le victoire en trompe-l'œil.
L'opportunité d'organiser des matchs amicaux contre la Lettonie m'a pas frappé.
On retrouvera nos bleus, bien sûr, dimanche prochain contre la Roumanie sur la chaîne L'Équipe. Ce sera leur premier match de préparation. Rendez-vous dimanche à 17h15. Et puis on en profite pour vous rappeler qu'en vue des Jeux, dans 110 jours, la chaîne L'Équipe aussi suivra donc le hand chez les hommes, chez les femmes. On suivra aussi le basket, le volley et les bleus de Thierry Henry. Donc on va suivre beaucoup de
sports. La préparation olympique, c'est chez nous.
Victor Wembanyama pour l'équipe de France de basket masculine, ce sera la prépa sur la chaîne L'Équipe.
Et peut-être qu'il jouera avec Thierry Henry, Victor Wembanyama, s'il n'arrive pas à avoir 11 joueurs.
Pourquoi pas dans les buts.
Franchement, il pourrait être
pas mal. 8 mois après, c'est le retour, et c'est un retour qui fait plaisir, le retour de Romain Tamac, la charnière avec Antoine Dupont.
Exactement, pour un huitième de finale de Coupe des Champions, c'est un objectif cette saison pour Dupont et Tamac. Et les Toulousains affichent 100% française contre le Racing. Et c'est Toulouse qui marque en premier grâce à Peato Movaca, l'international français. Toulouse qui domine tout le match, le quatrième essai à la 69e minute grâce à centre tongien, grâce au centre Pita acquis. Toulouse qui termine fort avec un cinquième essai dans le temps additionnel grâce au troisième ligne Alexandre Roma, 31-7. Toulouse affrontera les Anglais d'Exeter en quart de finale dimanche prochain à domicile. Guillaume, je me tourne vers vous, Exeter à domicile pour un quart de finale, c'est jouable?
Ballotage très favorable pour les Toulousains et même pour les joueurs de l'UBB de Bordeaux qui recevront également à Chamond-Delmas les Harlequins. C'est plus facile de recevoir et de gagner. C'est beaucoup plus facile.
Ça m'Exeter pas trop.
Oula.
Non, mais
franchement,
j'ai pas le temps, mais ça mérite un rouge direct.
Oui. Continue avec Jean Anouilh et laisse une blague à la suite.
On aura été témoin de ça.
Oui, c'est vrai. Il y aura un jour.
Et ce sera plus dur pour nos amis de la Rochelle.
Max Verstappen, on termine là-dessus avec vous. La Formule 1, Max Verstappen, toujours aussi fort au Grand Prix du Japon.
Ouais, troisième victoire en 4 Grands Prix pour Verstappen. Un Grand Prix marqué par un drapeau rouge dès le premier tour. Regardez chronologiquement l'extinction des feux. Troisième virage. Daniel Ricciardo qui pousse Alex Albon sur la droite. Les deux voitures sont à tapis. Drapeau rouge, nouveau départ. Et ensuite, au bout des 53 tours, ça c'est le drapeau rouge avec le deuxième départ. C'est la victoire finalement à la fin de Max Verstappen. Encore leader au classement des pilotes incontestés. Nos deux pilotes français au Conegas.
Ils sont pas arrivés encore. Les Alpines ne sont pas arrivés, me dit-on dans l'oreillette.
Ça fait 15e et 16e.
Il y a vraiment Max Verstappen.
Il y a eu deux grands moments dans le parcours. Il y a eu deux départs.
Oui, il y a eu deux départs.
Après,
c'est ce qu'il aime, Raymond, les départs.
C'est comme ça qu'on peut résumer.
Ah, Raymond, ça n'est pas mauvais.
Ils étaient sur le gris.
C'est bien de regarder le départ, déjà, c'est pas mal.
On regarde les départs.
On l'a vu.
On regarde les arrivées.
C'est ça qu'on a montré.
Génial.
Merci, messieurs. Allez, fin de l'équipe du soir. On rappelle les rendez-vous demain, l'EDC, l'équipe de choc avec France Piron, l'équipe de Greg et l'équipe du soir avec un invité exceptionnel demain soir sur ce plateau, ici à partir de 22h50, ce lundi soir, avec Mémé. C'est Pierre Lescure qui sera là à J-2 avant le match entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Excellente nuit, à très vite. Ciao.